تحسن من سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبينهما رجال كثير ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on est toujours إن شاء الله تعالى dans le chapitre la prière, la salat. On avait vu beaucoup de choses la fois passée. On va juste réviser la dernière chose qu'on a vue pour commencer, inshallah ta'ala, dans le nouveau. Bien sûr, dans la prière, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et beaucoup de choses qu'on croit connaître et c'est dans l'erreur. C'est pour ça que, inshallah ta'ala, à chaque fois, on apprendra beaucoup, beaucoup de choses, yani, qui sont bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala nouvelles. La dernière chose où on s'est arrêté, on avait parlé de celui qui ne fait pas la salat, s'il est kafir ou, c'est pas, ou s'il n'est pas kafir. On avait donné les avis des ulama, on avait donné quelques délits. Mais en conclusion, il faudrait dire, comme a dit l'Awaïcha Hafidahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ نَخْتَلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Et il a dit, yani, malgré ce qu'on dit les ulama ou malgré tout ce qui se passe, on ne doit pas cette mas'ala, est-ce qu'il est kafir ou bien il n'est pas kafir, ne doit pas être un problème pour nous, ou نَجْعَلُ فِيهَا وَلَا أَنْوَ بَرَعَنْ, de sorte à ce que, par exemple, je vais dire, si moi je suis de l'avis du Cheikh Al-Albani et des quatre a'imma qui disent qu'il n'est pas kafir, donc celui qui dit il est kafir, je ne vais plus lui parler. Et ce n'est plus mon frère, et ce n'est plus mon ami. Pourquoi? Parce qu'il ne me voit pas comme moi. Ou bien le contraire, celui qui dit il est kafir, il va dire alors, quiconque dit il n'est pas kafir, je ne vais pas lui parler. Là, ce n'est pas mon ami. C'est comme ça que font qui? Takfiriyoun. Takfiriyoun, si jamais tu dis il n'est pas kafir, ou bien tu dis, celui qui ne juge pas avec l'islam, il n'est pas kafir. Il y a des détails. Il peut être kafir, il peut ne pas l'être. Place. Tu es directement kafir, toi. Si tu n'es pas kafir, il ne te parle pas. Il dit non. Celui-là, il n'est pas de nous. Ici, le mu'allif, celui qui a écrit le livre, a dit, cette chose, c'est ijtihad. Il y a des hadiths qui disent kafir, des hadiths qui disent il n'est pas kafir. Il a dit, c'est pas pour cela qu'on va ne plus parler ou là qu'on va devenir des ennemis entre nous. Ensuite, il y a deux choses qu'on ne doit pas oublier ici. أولاً أمر يتعلق بجزاء تارك صلاة عند الله هيخلد في النار أم لا وليس لنا من هذا الأمر شيء. En ce qui concerne celui qui ne fait pas la prière, kafir ou là il n'est pas kafir, premièrement, ça se divise en deux. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est en ce qui concerne son avenir. Est-ce qu'il va rester éternellement en enfer ou là il ne va pas rester? Il a dit ça, premièrement, ce n'est pas de notre ressort. Moi, c'est pas moi qui vais rentrer dedans, yani, pour savoir s'il va aller. Je vais pas lire dans la table préservée pour voir, je peux pas lire pour voir s'il va rester éternellement ou s'il va sortir. Hada al-amru yarji'u fi dhalika ila Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah subhanahu wa ta'ala décide. Seul lui décide. Est-ce qu'il va l'éternaliser en Jahannam, il va rester toujours pérennisé ou là il va sortir? Donc, c'est la première. Deuxièmement, en ce qui concerne cette vie, en ce qui concerne ce bas monde, il y a deux choses aussi. La première, c'est que ما ينبني عليه من إجراء أحكام الكافر كمنع الميراث تطليق زوجته وعدم دفنه في مقابر المسلمين عند موته. Deuxièmement, on ne doit pas oublier que si tu dis qu'il est kafir, tu dis qu'il est kafir, n'oublie pas aussi ce qui s'ensuit. C'est pas seulement tu dis qu'il est kafir et tu te tais. il est kafir, tu dois dire que sa femme est divorcée de lui. Le musulman n'a pas le droit d'être marié avec un kafir. Donc sa femme est divorcée de lui et elle ne l'hérite pas, et lui il ne l'hérite pas si elle meurt avant lui. Et si jamais il meurt, on ne doit pas le laver, ni faire la salat sur lui, ni le mettre dans maqabir muslimin, c'est-à-dire le cimetière des musulmans. Alors n'oublie pas, si tu dis qu'il est kafir, tu dois aussi appliquer cela, sinon tu es dans le ithm. Et troisièmement, il a dit quelque chose de très important aussi. Il a dit ma yanbani alayhi min al-istitaba idha imtana. Idha imtana, yani istitaba idha imtana min qatl, wa nahnu na'lam ma'a al-asaf ghiyab hadha wal 'ajz 'anhu. Wa nahnu na'lam ghiyab hadha wal 'ajz 'anhu. Il a dit, maintenant, on avait dit que tous sont unanimes pour dire que si quelqu'un ne veut pas faire la salat, on le prend, yani le gouverneur le prend, et il lui dit, si tu ne fais pas la salat, je te donne 3 jours. Si tu ne la fais pas, certains ont dit, on lui donne 3 jours, et la plupart des sahabas faisaient ceci. Certains ont dit, on ne lui donne pas 3 jours, on lui donne une salat, c'est tout. On lui dit, par exemple, si on est à 2h de l'après-midi, on lui dit, salat al-asr, si tu ne la fais pas, on te coupe la tête, choisis. Il a dit, maintenant, si on le prend à la guillotine, et on lui dit, tu vas mourir à cause de la salat, tu ne veux pas faire. Il dit, je ne vais pas la faire, je veux mourir. Celui-là, il ne faut pas avoir un atome de doute que c'est un kafir. Subhanallah, il sait qu'il va mourir à cause de la salat, et il sait que seulement s'il l'a fait, on va le laisser vivre. Il dit, non, je préfère la mort. Ah, ça, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, donc c'est sûr qu'il a, il a quelque chose dans le cœur, un corps qui est ancré. Comme a dit Cheikh Islam, il a dit, والناس كلهم لا يحبون يكرهون الموت الإنسان يعني لا يرضى بالموت إلا لأمر عظيم. Donc celui-là, s'il veut mourir, c'est que vraiment il a une aqida dans le cœur, yani vraiment ancré, bien sûr une aqida de kuf. J'ai dit, celui qui a écrit le livre a dit, mais puisque maintenant il n'y a pas cette chose, ça veut dire celui qui ne fait pas la prière, on ne le prend pas pour lui dire on va tuer. Il n'y a pas ça. Ce choc n'est pas appliqué. La règle, la sharia n'est pas appliquée en ce sens. Il a dit, donc pourquoi je vais faire des disputes avec mes frères, pourquoi je vais ne pas leur parler, etc. Alors que ce sont des choses qui nous dépassent. Ce sont des choses qui nous dépassent. Ça veut dire, même s'il est kafir ou pas kafir, premièrement, je ne peux pas le savoir. Et deuxièmement, il n'y a pas comment. Il n'y a pas l'application de la sharia. Allah subhanahu wa ta'ala. أن يعيننا حتى يطبق حكم الله سبحانه وتعالى على أرضه. Ensuite il a dit على من تجب الصلاة على من تجب. يعني c'est pas tout le monde doit faire la salat. Qui doit la faire? Quand est-ce elle devient obligée? قال تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ. La salat doit la faire le musulman. Ensuite il a dit العاقل. Ensuite il a dit balir, l'aql, celui qui est devenu pubère, pardon, le conscient, balir, celui qui est devenu pubère. Premièrement, quand il a dit tajibu salat ala al-muslim, quand il a dit la salat est obligatoire pour le musulman, j'ajouterai une chose, elle est aussi obligatoire pour le kafir. Le kafir aussi doit faire la salat. Et le kafir doit faire exactement ce que fait le musulman. Il n'a pas été créé pour jouer. Il a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne l'a pas fait. Donc si le kafir dit, comment je fais la prière, moi je suis pas musulman, on lui dit, justement, tu rentres en islam et tu commences la prière. Justement, tu n'as pas d'excuse. Tu dois rentrer en islam, te laver de la janaba et commencer la prière. C'est pour ça que lorsque les gens iront en enfer pour visiter, rendre visite à leurs amis ou à leurs parents qui sont en enfer, les gens du paradis bien sûr, ils iront en enfer, ils leur diront masalaka kum fi saqar, qu'est-ce que vous faites ici dans la fournaise. Qalu lam nakum min al-musallin, première réponse, première phrase, premier mot, lam nakum min al-musallin, on ne faisait pas la prière. Donc regardez les kuffar, ils disent le jour du jugement dernier, ils vont dire on ne faisait pas la prière. Et c'est pas la peine de dire ce sont des musulmans, ce sont des kuffar qui ont parlé ici, parce que l'Azawajal a dit dans le même verset un peu plus loin, et on ne croyait pas au jour de la résurrection. Donc ce sont des coups. Donc première réponse, qu'est-ce qu'ils vont dire le jour du jugement dernier, ils vont dire on ne faisait pas la prière. Donc le kafir aussi est obligé, il doit faire la prière, car il doit rentrer en islam. Ensuite il a dit, mais bien sûr, s'il l'a fait en tant que kafir, elle n'est pas acceptée. S'il l'a fait en tant que kafir, elle n'est pas acceptée. C'est pour ça que ici dans le livre il a dit le muslim, c'est-à-dire c'est le muslim qui est, quand on est muslim, on l'a fait pour qu'elle soit acceptée. Ensuite il a dit l'aql, deuxième condition, l'aql, le conscient. Celui qui n'est pas conscient, celui qui n'est pas conscient, il ne peut pas faire la prière. Car la prière c'est quoi? C'est des choses que tu récites et des gestes que tu fais avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si quelqu'un maintenant ne sait pas ce qu'il dit, il est sourd par exemple, il a consommé la drogue, comment peut-il adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit Allahu Akbar, ensuite il ne sait pas ce qu'il dit. Peut-être il va s'insulter, peut-être il va insulter Allah, peut-être il va rigoler, peut-être il va danser. Soit il n'est pas conscient. C'est pour ça qu'on a dit l'Azul, la taqrabu salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Il faut que tu saches ce que tu dis dans la salat. Il faut que tu saches. Maintenant, qu'en est-il de quelqu'un qui est conscient, très conscient, yani, il rentre dans la salat, il dit Allahu Akbar, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa laka min salatika illa ma'aqib. Celui-là, il n'a bu ni alcool, ni consommé de drogue. Nous tous, moi, toi, quand tu rentres dans la salat, tu n'as de la salat que les moments où, yani, ton esprit était avec toi. Tous les moments où tu étais distrait, tu n'as rien de la salat, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit, certains sortent de la salat, ils n'ont que le dixième, que le neuvième, que le huitième, que le septième, jusqu'à, ils n'ont que le demi, une demi-salat. Naam. C'est pour ça que, il faut bien ne pas oublier cela. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met son visage, son beau visage, il le met en face de toi. Et maintenant, on va voir ce que tu vas dire. Si tu es là, conscient de ce que tu dis, tu sais ce que tu dis, les anges écrivent. Tu sais pas ce que tu dis, ou là tu penses à la femme, qu'est-ce qu'elle a préparé aujourd'hui comme manger, ou là tu penses qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme film. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il va y avoir comme film, ou là tu penses je ne sais pas qui a marqué le but aujourd'hui. Là, on t'écrit rien dans ta salat. C'est pour ça qu'il faut, yani, comme on a dit ici, il faut que notre conscience soit avec nous. Donc ici quand il a dit l'aqil, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le fou par exemple, ça n'est pas accepté de lui. Et l'attardé mental, celui qui, yani, il est un peu fou. Tout cela, on ne leur demande pas de faire la prière. L'Azzawajal voudrait de quelqu'un qui soit conscient qu'il fasse la prière. C'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Ensuite il a dit le balir. Le balir ça veut dire pubère. Tant qu'il n'est pas pubère, tant que quelqu'un n'est pas pubère, tous les péchés qu'il fait ne comptent pas. Regardez, Fadl Allah subhanahu wa ta'ala, et regardez l'islam. L'islam, l'Azzawajal nous a créé, et il sait que celui-là, tant qu'il n'est pas pubère, il peut dire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. C'est pour ça, il ne lui compte pas quoi? Il ne lui compte pas tous les péchés qu'il fait. Quelqu'un qui n'est pas pubère, s'il insulte l'islam, ou ne fait pas la prière, ou n'importe quoi, ce n'est pas marqué contre lui. Mais ses parents risquent quoi? Risquent le châtiment à sa place s'ils ne l'ont pas éduqué. Et par exemple, un père entend son fils en train d'insulter, il se bedine, et il lui dit rien, il le laisse, l'enfant n'aura rien et son père aura quoi? Aura le péché. C'est comme si le père avait insulté. Parce qu'il voit, mais il entend son fils en train de dire le haram et il ne l'empêche pas. C'est pour ça que pour la salat c'est la même chose. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on doit, yani, apprendre les enfants la salat à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, s'ils ne la font pas, on doit les frapper. Donc entre 7 et 10 ans, on ne les frappe pas. On leur dit seulement qu'est la prière, ceci, cela. S'ils ne veulent pas, on les pince un peu. Mais à l'âge de 10 ans, s'ils ne veulent pas faire la prière, celui-là, on doit le frapper jusqu'à ce qu'il la fasse. Et tous les parents qui voient leurs enfants ne pas faire la prière et les laissent comme ça, ce sont eux bien sûr qui vont payer le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'ils ne leur ont pas montré yani le wajib, ils ne leur ont pas montré l'obligatoire. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum naran. Ô vous les croyants, préservez-vous, préservez-vous, vous yani anfusakum wa ahlikum, et votre famille, vous et votre famille, de du feu qui attend yani yawm al-qiyamah. Il a dit vous et votre famille, et les enfants font partie de notre famille, c'est notre plus proche famille, c'est une, notre plus proche famille, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama, il a dit kullu mawludin yulad al-fitra innama abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama talidu al-bahimatu kama talidu al-jam'a hal tarawna min jad'a كما تجد البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون من جدع. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant qui naît, il naît yani voué à l'islam. Ce sont ses parents qui le rendent chrétien ou juif, ou bien ils le rendent yani majusi. Majusi, naam. Ce sont les parents. Donc la grande responsabilité, c'est les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rufi'a al-qalamu an thalath. Voilà le dalil que quand on est jeune ou la fou ou là, yani ça ne compte pas les péchés. Il a dit Rufi'a al-qalamu an thalath. Les anges qui écrivent, il a dit ici, la plume avec laquelle ils écrivent, elle est levée. Ça veut dire, quand on lève la plume, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'écrire. Quand on veut écrire, on descend le stylo, on le descend sur la feuille. Quand on lève notre main, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'écrire. Ici a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois personnes. On ne leur écrit pas. On ne leur écrit pas. C'est quoi? Le premier, anin na'im hatta yastayqidh. Il a dit celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. J'oublierai pas de dire que pour ceux qui sont les enfants qui ne sont pas pubères, j'oublierai pas de dire que, mais quand ils font des hasanats, ça s'écrit. Regardez la beauté de l'islam. Quand ils font des péchés, ça s'écrit pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, ils sont encore jeunes. Mais quand ils font des hasanats, ça s'écrit. S'il va au hajj, ça s'écrit. S'il fait le siyam, ça s'écrit pour lui. S'il fait l'aumône, ça s'écrit. S'il fait la salat, ça s'écrit. Pour l'habituer, pour l'habituer. Bien sûr, s'il va au hajj, ça s'écrit un hajj nafila, surérogatoire. Ça veut dire, quand il sera plus vert, il doit refaire le hajj. Il doit refaire le hajj. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume est levée. Tiens, on n'écrit pas. À qui? On n'écrit pas, premièrement, à celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, sahih, il a dit La tafrita fil noum. La tafrita fil noum. Quoi, quand tu dors, la ghalb, tout ce qui se passe en étant en train de dormir, ce n'est pas ta faute. Même tout ce que tu dis dans les songes, ou là ce que tu fais, ou là tu bois l'alcool, ou là dans le songe, ce n'est pas ta faute. Donc, la azawajal, quand quelqu'un dort, ne lui compte pas ce qu'il fait. Et quand il ne se réveille pas à la salat, ou là il se réveille tard, s'il a pris le soin de se réveiller et il n'a pas pu, Allah Azza wa Jal ne lui écrit pas, c'est un péché. Par exemple, quelqu'un qui avant de dormir, il utilise un réveil par exemple, ou là il utilise son portable, il le réveille. Ensuite, il ne l'entend pas, ou là, il l'arrête sans le vouloir, tellement il a sommeil, il l'arrête sans le vouloir, celui-là, Allah Azza wa Jal, ne lui écrit pas un péché. Parce que j'ai dit, il l'arrête sans le vouloir, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais celui qui dit, moi je vais dormir et je m'en fous. Quand je me réveille, je fais la prière. Je me réveille à 5h du matin, je la fais en son heure, parce que là, le Fajr il est à 5h par exemple. Sinon, si je me réveille à 10h ou à 11h, je vais faire la prière à 11h. Celui-là, bien sûr, il a des péchés. Pourquoi? Il n'a pas pris le soin, il n'a pas essayé de se réveiller à l'heure. Il n'a pas essayé. Et je vous ai dit une fois, et je le répète, que Cheikh Ibn Baz, a dit que quiconque règle le réveil, au lieu de le régler pour la salat, il le règle seulement pour le travail, il a dit faqad ashrak. Ashrak. Et d'autres m'ont dit, il a dit faqad kafar. Certains m'ont dit, il a dit faqad ashrak, et je crois l'avoir lu le mot ashrak. Et d'autres m'ont dit, il a même dit faqad kafar. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence. Pour quelqu'un qui, quoi? Quelqu'un qui, au lieu de régler le réveil pour la salat, Et ensuite, pour le travail, celui-là, non. Il s'en fout de la salat. Il adore quoi? Il adore le travail et l'euro. Il n'adore pas Allah et la salat. Il adore le travail. Alors, il règle le portable directement à 7 heures du matin. Il ne veut pas le régler à 5 heures du matin pour la salat. Il le règle directement à 7 heures. Celui-là, Cheikh Ibn Baz, il a dit « Faqad ashrak » ou « Faqad kafar » ou « L'ayyadu billah » Naam. Ensuite, il a dit « Hatta istayqidh » Donc, celui qui dort, il n'a pas de... Yani, la plume ne marche pas, on n'écrit pas contre lui jusqu'à ce qu'il se réveille. « Ma'ani al-majnoun hatta yafiq » Et le fou, jusqu'à ce que il prenne conscience. Quand quelqu'un est fou, il boit de l'alcool, il insulte, il fait n'importe quoi, il tue des gens, il n'a toujours pas de péché. Mais on ne doit pas oublier une chose seulement, c'est que quoi? C'est que quelqu'un qui est fou, par exemple, s'il fait des choses en lui-même, il se tue, ou là il boit l'alcool, ou là il n'a pas de péché. Mais s'il fait du mal à autrui, par exemple, il casse le pare-brise d'une voiture, ou là il brûle la maison de quelqu'un, ou là n'importe quoi. On va pas dire, là, il est fou, qu'est-ce qu'on fait, il est fou. Non, on va dire à son tuteur de nous payer ce qu'a fait le fou. Non, pourquoi? Parce que le fou, celui-là, puisque tu savais qu'il était fou, tu devais pas le laisser venir nous faire des problèmes dans la rue et chez les voisins. Tu sais qu'il est fou, malade, on l'a échappé, tu le laisses à la maison, ou bien tu le prends à l'hôpital psychiatrique. C'est pour ça qu'un fou, quand il fait des dégâts, qui ne s'arrête pas yani, à lui, mais à autrui, il doit payer. Bien sûr, c'est pas lui qui paye, c'est qui? C'est son tuteur qui doit payer. Et le fou, comme vous savez, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal va lui envoyer un prophète pour le tester, pour savoir yani, s'il va aller, pour que lui sache bien sûr s'il va aller en enfer ou là il va aller au paradis. Ça, il y a un hadith, on l'a déjà cité une fois. Et troisièmement, il a dit وَعَنَ الصَّابِي حَتَّى يَكْبَرْ حَتَّى يَكْبَرْ نعم. Dans un autre hadith وَعَنَ الصَّابِي حَتَّى يَحْتَلِمْ Donc, l'enfant avec qui n'est pas plus vert, il yani, ça, on n'écrit rien contre lui, mais il ne doit pas faire le haram à notre vue. Yani, on ne doit pas le laisser faire le haram. C'est pour ça que Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, le hadith il est sahih, ذَكَرَهُ الْأَرْضِ ابن تيمية في مجموع الفتاوى ابن حجر العسقلاني في فتح الباري que عبد الله ابو عمر بن الخطاب a vu un vêtement يعني de haram je crois qu'il a vu le harir la soie chez un enfant de Zubair ibn al-Awwam un des enfants de Zubair ibn al-Awwam avait mis la soie qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn al-Khattab quand il a vu il le lui a déchiré la même chose عبد الله ابن مسعود a vu chez un de ses enfants, il avait mis de la soie, il le lui a déchiré, le tricot ou là qu'il avait, il lui a déchiré comme ça, yani devant lui, pour lui montrer que ça ne s'habille pas et c'est haram. Donc on ne dit pas il est jeune et ça ne fait rien. Non, il n'est pas jeune, soit tu es responsable de lui. Non, quand il fait le haram, que tu n'entends pas, ou là il insulte, ou là tu l'as pas entendu, c'est entre lui et Allah, Allah ne va pas lui écrire. Et quand tu le vois faire le haram, soit en disant, ou là, soit en s'habillant de haram, tu dois yani, lui montrer, lui dire que ça ne se fait pas, que c'est haram, et l'éduquer comme ça petit. C'est pour ça qu'il est très malheureux lorsqu'on voit certains frères, la hawla wa la quwwata illa billah, et certaines sœurs qui ont des enfants, nam, qui ont des enfants comme ça jeunes, et très jeunes, à l'âge de 7 ans, 8 ans, si c'est une fille, les gens on commence à l'habiller à la mode. On l'habille avec, je ne sais pas, maintenant moi, je connais pas la mode, c'est quoi. Je connais la mode d'il y a 40 ans, à la mini-jupe. Maintenant, à 6 ans, 7 ans, on lui met par exemple la mini-jupe, on lui met la hawla ou la quwwata illa billah. On lui commence à apprendre comment yani, imiter les kafirettes comme ça à l'âge de 7 ans, au lieu de commencer à lui parler du jilbab à cet âge. On l'habille avec la mini-jupe et je ne sais pas quoi, le maquillage très très jeune. Ensuite, c'est difficile pour lui dire, quand elle devient pubère, c'est très difficile pour lui dire, tu ne dois plus faire cela. Pourquoi? Quand quelqu'un s'habitue à une chose, c'est très difficile de la lui enlever. Comme on dit, l'habitude, c'est une seconde nature. Non, l'habitude, classe, très très difficile de l'enlever. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ses parents qui le rendent chrétien ou qui le rendent majoussi. Naam, sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. طيب عدد الفرائض. Vous savez que la prière obligatoire, il y en a 5. Allah Azza wa Jal avait écrit 50. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté 3 fois chez lui, en une fois il est monté 3 fois et il a commencé à l'implorer, etc. pour que yani, il allège un peu, pour qu'il allège, il a laissé combien? 5. Et il a dit, moi quand je dis une chose, yani, je ne change pas. لا يبدل القول لدي لا يبدل القول لدي وما انا بظلام من العبيد. Donc il a dit, ça ne fait rien, j'avais dit 50 mais ça reste quoi? Ça reste 5, pardon, j'avais dit c'est 50, c'est toujours 50 mais 5 quand vous la faites. Non, c'est toujours 50 mais 5 quand vous la faites. Pourquoi? Parce que maintenant l'azul nous compte pour chaque salat comme si on l'avait fait 10 fois. Non, chaque salat qu'on fait, c'est comme si on avait fait 2 fois. 10 fois, pardon. Une seconde, Inch'Allah, une seconde. Non. Je disais que, bien sûr, ça c'est un hadith sahih. Tout le monde le connaît dans le Bukhari. L'Azul, quand il dit une chose, classe. Il a dit, Na yubadalu al-qawlu ladiya, man abidallah min al-abid. J'avais dit que c'était 50, ça reste 5. Dans le Hajr et 5 dans les faits. Quand vous faites seulement 5 prières, mais moi je vous en compte 50. Chaque prière, je vous la compte 10 fois. Et le hadith qui prouve qu'il y a 5 salats qui sont obligatoires, vous connaissez le sahabi radiallahu ta'ala anhu qui est venu comme ça du bled et qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un arabe, hein. Arabe c'est quelqu'un qui habite, yani, il n'habite pas la ville. Quelqu'un qui habite yani, un petit village, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, akhbirni ya Rasulullah, akhbirni mada faradallah aliya min salat. Dis-moi, ya Rasulullah, c'est quoi yani, les salats qu'Allah Azza wa Jal m'a obligé de faire? Faqal, salawat al-khams, illa an tattawa shay'an. Il a dit, tu fais les 5 salats, sauf si tu veux ajouter quelque chose de toi. Naam, tu fais les 5 salats, sauf pour quelqu'un qui veut ajouter ses nafilah. Il n'y a pas plus de 5 salats obligatoires. Il y a un petit, yani, les ulama ont un peu, yani, c'est de. Yani, diverger un peu sur le 8. Est-ce qu'il est wajib ou est-ce qu'il n'est pas wajib? Mais le vrai que on a 5 salats et que le 8 c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna mu'akkada. Yani, c'est une sunna très très recommandée, mais pas au point où elle est obligatoire. Maintenant, mawaqit salat, on va parler très vite de yani, quels sont les moments de la salat, ou l'heure de la prière, quelles sont ces heures. Premièrement, Allah Azza wa Jalla al-mu'minina kitab al-muquta. Inna salata kant al-mu'minina kitab al-muquta. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset que la prière est pour les croyants quelque chose yani, qui a un moment précis. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup de fois et je répète toujours la chose importante, toujours je la répète 50, 100, 1000 fois, 2000 fois quand elle est importante. Je répète que en islam les adorations ça se divise en plusieurs types, mais ça se divise aussi en adorations qui ont des moments précis et adorations mutlaqa qui n'a pas de moment précis. Les adorations ibadat mu'akkata qui ont des moments précis et ibadat ghair mu'akkata qui n'a pas de moment précis. Par exemple le mu'akkata qui a un moment précis, par exemple le ramadan, l'adoration qui a un moment précis ne peut se faire que pendant son moment. On ne peut pas la faire avant ni après. C'est à dire par exemple le ramadan, est-ce que quelqu'un de nous il va dire en ce qui concerne le ramadan de l'année prochaine qui va venir, je vais le faire maintenant parce qu'après je serai occupé, donc à partir de demain inchallah je vais jeûner un mois avec l'intention que c'est le ramadan de l'année prochaine. Est-ce que ça va être accepté? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le ramadan c'est quoi? C'est quelque chose qui a un moment Maintenant, la salat. La salat, c'est la même chose. C'est une ibada, une adoration qui a un moment. Le hajj, c'est la même chose. Une ibada qui a un moment. Tu ne peux pas aller au hajj s'il n'a pas commencé. Il faut, au moment même, et quand le hajj se termine, tu ne peux pas rester toi en train de tourner autour de la Kaaba ou d'aller à Minan ou là. À Arafat, c'est trop tard. Ça a un moment. Maintenant, la salat, c'est la même chose. Ça a un moment. Il faut la faire en son moment. C'est pour ça que la salat, qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de la salat, en fait, il nous a ordonné de faire deux choses. De faire la salat et de la faire en son moment. Alors se trompent beaucoup, beaucoup ceux qui croient que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire la salat, c'est tout. C'est pour ça que donc, il va faire la salat du subh, il la fait l'après-midi. Et la salat du dhuhr, il va la faire la nuit. Et salat d'Isha, il va être fatigué. Il va dire c'est la même chose, je vais la faire inchallah demain à 8h du matin quand je me réveille. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Pourquoi? Il n'a pas compris que la salat c'est une adoration qui a un moment précis, une heure précise. Si tu la fais pas pendant son moment, c'est pas la peine de la faire. Naam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit waylun lil musallin. Fa waylun lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل ويل نعم ويل c'est un châtiment à Jahannam. Ce châtiment c'est pour qui? Pour ceux qui font pas la salat? Non, ce sont pour ceux qui la font. فويل للمصلين, pour ceux qui la font, c'est pas pour ceux qui la font pas. Donc s'il y a un châtiment pour ceux qui la font, qu'en est-il pour ceux qui ne font jamais de salat? Et pourquoi il y a un châtiment pour ceux qui la font? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Pour ceux qui ne font pas la prière à l'heure. Ils sont عَنْ صَلَاتِهِمْ, ils sont سَهُونَ. Yani, comme a dit Abdullah ibn Abbas, il fait la salat de dhuhr, il la fait le soir. La salat du asr, il la fait la nuit. Et comme ça, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? سَهَا عَنْ صَلَاتِهِمْ. Il l'a laissé sciemment et il ne l'a pas fait jusqu'à ce que son moment est sorti. Celui-là, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un azab, un châtiment à Jahannam. Pourquoi? Parce que seulement il n'a pas fait à l'heure. Alors qu'en est-il de ceux qui ne font pas la salat du tout? Naam, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran aussi: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jalla a dit: après les sahaba, il est pieux, etc., est venu d'autres gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aba'u salat. Ils ont laissé le temps, ils ont yani, ils n'ont pas fait la salat à l'heure. Aba'u salat. Pourquoi? Ou taba'u shahawat. Ils ont suivi les tentations. Ou taba'u shahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Il y a un châtiment qui les attend demain à Jahannam. Donc, il parle aussi de ceux qui yudayyi'un salawat. وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, quand il a dit أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, quand il a dit ils ont ضَيَّعُوا الصَّلَوَاتِ, ils ont délaissé la salat, ou ils ne l'ont pas fait à l'heure. Après cela, automatiquement, il a dit quoi? Derrière ça, il a dit وَتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ, et ils ont suivi les tentations. Car en fait, toute personne qui ne fait pas la prière à l'heure, c'est à cause d'une tentation. Celui-là, à cause d'une tentation, il est en train de voir le film, la tentation du film. L'autre, la tentation des amis. Il est avec ses amis en train de parler, de présenter, de discuter. L'autre, la tentation de l'euro. Il est dans le travail, il dit non, le travail est très important, je ne peux pas faire la prière. Celui-là, il suit quoi? Il suit la tentation de l'argent. Car enfin, la fin du mois, il va avoir la paix. Et comme ça. Celui-là, il est au cinéma à cause du cinéma. Et comme ça. Toujours. Content. C'est pas la prière, c'est qu'il y a une tentation derrière, c'est qu'on suivait une tentation. Et bien sûr, il y a des cas où on ne peut pas faire la prière. Ce cas, par exemple, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, par exemple, est évanoui, quelqu'un est inconscient. Celui-là, les ulama ont divergé. Quand quelqu'un reste, par exemple, évanoui 2 ou 3 jours, là il est dans le coma ou là, Cheikh Ibn Rothaymin, il a dit c'est pas la peine qu'il rattrape la salat. Quelqu'un, quand il s'évanouit et il devient conscient, c'est pas la peine qu'il rattrape la salat qui est partie. Mais si, par exemple, c'est la prière de l'Asr, par exemple, maintenant c'est l'Asr, il vient d'appeler à la prière. Ensuite, je me suis évanoui, je me suis réveillé après 1 heure. Je suis toujours dans Salat l'Asr, je la fais. Mais si je me réveille la nuit, là, c'est pas la peine de rattraper l'Asr. Pourquoi? Je me suis évanoui, c'est pas moi qui ai voulu m'évanouir, c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un délil, c'est aussi ce qu'a dit Cheikh Islam. Il n'y a pas un délil qui dit que tu dois refaire quand tu t'évanouis. Non, il n'y a pas un délit qui dit. L'homme, il a amr jadid. Je disais que tout ça pour dire quoi? Pour dire que la salat, il faut la faire à l'heure. C'est pour ça que quiconque fait la salat à l'heure, celui-là, alhamdoulilah, il est voué à la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que demain, malgré les fautes qu'il a faites, beaucoup de fautes, inshallah, il va lui pardonner. Parce qu'il a fait la meilleure des choses. C'est la salat en son heure, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la première des choses que l'Allah azzawajal va nous, dont l'Allah azzawajal va nous parler, il va nous questionner, c'est la salat. Comme dans le hadith sahih. La première des choses, quand on se lèvera devant Allah subhanahu wa ta'ala, on passera, pour nous questionner, il va commencer par la salat. As-tu fait la salat? Et ici, bien sûr. L'as-tu fait à l'heure? As-tu fait avec le wudu, avec khushu, avec kaza? S'il y a la salat et elle était à l'heure, comme a dit le hadith, indek, ahd, ind Allah, elle nous prie laquelle jinnah. Tu as un pacte avec le Sahara qui te rentre au paradis. S'il n'y a pas la salat, ou elle n'était pas à l'heure, ou la hadith, tu n'as pas un pacte. S'il veut, il te pardonne. S'il veut, il ne te pardonne pas. Mais dans le premier cas, quand tu l'as fait à l'heure, avec le khushu, etc., tu as le pacte avec le Sahara. L'azul, quand il dit quelque chose, yani, la yukhlifu, la yukhlifu wa'da. Donc, vous devez montrer aux gens et savoir vous-même que la salat, c'est une adoration qui est liée à l'heure et à des moments. Elle ne se fait pas avant l'heure, elle ne se fait pas après l'heure. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, Ibn Hazm, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, a dit, si tu ne fais pas la prière jusqu'à ce qu'elle sorte, comme ça, exprès, tu veux pas la faire, c'est pas la peine de la rattraper. Non. Si tu restes, tu entends maintenant, il est par exemple 15h, par exemple, il est 15h, c'est ça la salat. Tu entends l'adhan, l'as. Et tu dis, khaddi, c'est pas la peine, laisse après, laisse après, laisse après. Ensuite, maintenant, il fait l'appel du Maghreb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est ça le Maghreb. Cheikh Ibn Uthaymin, Ibn Hazm et l'Albani te disent, c'est pas la peine de faire l'as. C'est trop tard. Même si tu vas la faire, elle ne va pas être acceptée. Pourquoi? Parce que tu n'avais aucune excuse et tu ne l'as pas faite. Tu n'avais aucune excuse et tu ne l'as pas faite. Maintenant, la salat, c'est la seule chose où il n'y a pas d'excuse. Sauf si on est inconscient, ou là on est quoi? Ou là, comme je disais, on est, par exemple, on a dormi, ou là on s'est évanoui. La salat, quelqu'un est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Indi Bawasir. Bawasir, c'est des, je ne sais pas comment ça se dit, bawasir, pardon, je connaissais le mot, je l'ai oublié, bawasir, je connaissais le mot. C'est des choses qu'on ressent par derrière, comme des boutons comme ça. On ne peut pas s'asseoir, on peut même pas aller faire ses besoins. C'est des boutons qui sortent là par derrière. Il lui a dit, j'ai cela, comment je fais la prière? Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as fait debout. Si tu ne peux pas, tu l'as fait assis. Si tu ne peux pas, tu l'as fait les hémorroïdes. Jazakallah, les hémorroïdes. Il a dit, ya Rasulallah, j'ai les hémorroïdes. Comment je fais? Il lui a dit, tu l'as fait debout. Et si tu ne peux pas, tu l'as fait assis. Si tu ne peux pas, tu l'as fait sur ton flanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas d'excuse. Donc dans la salat, il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas debout, tu te penches sur une canne. Comme s'est penché le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Daoud. Cheikh Al-Albani a dit Sahih, dans Sahih Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, se penchait sur une canne. Pourquoi? Parce qu'on doit faire la salat debout, sans la canne. Tu peux pas, ma'alish, penche-toi sur une canne. Tu peux pas, assois-toi. Tu peux pas assis sur le flanc. Maintenant, tu vas dire, je peux pas sur le flanc, c'est impossible. Tu peux pas sur ton flanc, tu peux pas sans wudu, tu peux pas avec le taïmoum, fais-la avec le sang, fais-la avec fais-la avec des taches. Tu as des taches de sang sur ton pantalon, fais-la. Tu peux pas enlever le pantalon, tu es malade, fais-la. Tu connais pas la qibla, fais-la. subhanallah l'adim, sauf la salat, elle n'a pas d'excuse. Et si maintenant quelqu'un va partir au djihad, il va faire la guerre sainte, subhanallah l'adim, il va faire la guerre sainte. Est-ce que y a, vous connaissez quelqu'un de l'ajr plus que la guerre sainte? Il n'y a pas ajr plus que cela, subhanallah l'adim. Et pourtant, vous savez, quelqu'un qui meurt yani, dans la guerre sainte, c'est un shahid. Bon, maintenant quand quelqu'un part à la guerre sainte, il part fi sabilillah et part pour mourir shahid. Mais la religion dit, même si tu pars pour la guerre sainte et l'heure de la salat est venue et l'ennemi est en face de toi, il est en train de tirer et toi tu es en train de tirer, vous tirez l'un contre l'autre, et si le moment de la prière est venu, un groupe s'arrête, ils vont faire la prière et les autres continuent à se battre, à se défendre et à tirer. Ensuite, le deuxième groupe vient tirer sur les ennemis et l'autre, les autres qui n'ont pas fait la prière, ils vont faire la prière. Subhanallah al-Azim. Là, je l'ai dit dans le Coran, wa idha kunta fihim, yani tu es dans le djihad. Fa aqamta lahum as-salat, ensuite, c'est l'heure de la prière. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Il y a un groupe qui vient avec toi, yani qu'ils fassent la prière avec toi. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Ils prennent avec eux leurs armes. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Ensuite, quand tu fais le sujoud, ils sont derrière toi. وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Et comme ça, آخر الآية. Donc, il y a un groupe qui fait la prière derrière le imam et un groupe qui est en train de tirer sur les ennemis. Ensuite, le deuxième groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il termine tout seul. Ensuite, l'autre groupe, ensuite ce groupe part de l'autre côté, et l'autre groupe vient faire la prière avec le même imam derrière lui. Regardez donc, en plein djihad, tu n'as pas le droit de dire eh, moi je suis en djihad, allez, je vais mourir, je vais aller shahid. Et pas shahid, tu fais pas la prière à l'heure. La prière, c'est très 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 important. Conclusion, il faut beaucoup beaucoup insister sur la salat pour qu'elle soit faite à l'heure. Beaucoup beaucoup insister. Beaucoup beaucoup. Pas seulement, pas plus tard qu'hier seulement. Hier, là aujourd'hui matin, j'ai oublié, mais je crois que c'est hier. On demandait, je disais, on demandait à l'Ajnal Daima, l'Ajnal, les grands ulama de l'Arabie Saoudite, on leur demandait, il lui dit, je n'ai pas trouvé de travail, sauf un travail où on m'interdit de faire la salat. Et je suis à l'étranger, je ne suis pas chez moi, l'Ghurba. Et si je lâche ce travail, je ne vais pas trouver de travail. Comment je vais faire? Voilà, ils ont posé la question à un conseil, au conseil des grands savants de l'Arabie Saoudite. Je n'ai qu'un seul travail, ils ne me laissent pas faire la prière. Et je suis dans un pays étranger, ma famille avec moi, et si maintenant on m'expulse de ce travail, je vais, yani, comment vais-je faire? Comment nourrir ma famille, etc. Réponse, il lui a dit, tu n'as pas le droit de ne pas faire la prière. Ton travail n'est pas une excuse. Dabbarasak. Tu fais la prière à l'heure. La ta'ata li makhlouq fi la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Il lui a dit, il n'y a pas ceci. Et la même chose, on lui a demandé pour le jumwa. Il dit, je ne peux pas faire le jumwa. Tu dois faire le jumwa. Si la mosquée n'est pas loin, tu dois faire le jumwa et ne pas faire le travail. Allah subhanahu wa ta'ala yirzuquk wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Pourquoi? La salat, c'est la salat. Sauf la salat. Naam, il est possible qu'on ne peut pas faire la salat à la mosquée. Mais au moins on l'a fait au travail. Au moins on l'a fait au travail. C'est pas, il va dire, moi j'ai peur de celui-là, je ne vais pas la faire. Et je vais la faire la nuit. Hein, la nuit, quand je pars chez moi, je fais le zahar. Ça, c'est impossible. C'est impossible de faire comme ça. C'est pour ça que je voulais dire que les gens qui n'ont pas fait la salat autrefois, il a fait le repentir à l'âge de 40 ans. Alors maintenant, normalement, il devait commencer la prière à l'âge de 15 ans. Ça, normalement, il commence à 10 ans. À 10 ans, s'il ne la fait pas, on la frappe. Mais ça ne compte pas jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Et un garçon et une fille, la puberté au maximum, c'est 15 ans. Pas plus de 15 ans. Ça y est. Maintenant, celui-là, il n'a jamais fait la prière, il a 40 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas fait 25 ans de prière. C'est pour ça, il est de la sagesse et de la grande sagesse de ne pas lui dire de rattraper les salats qu'il n'a pas faites. Si tu vas lui dire qu'il faut rattraper les salats qu'il n'a pas faites, premièrement, il n'y a aucun délit qui dit cela. Deuxièmement, comme a dit Cheikh l'Islam, il a dit c'est étonnant. le kafir, le kafir. L'islam ne lui dit pas va rattraper ta salat. Le kafir, quand il fait le repentir, il se convertit à l'âge de 50 ans, on lui dit pas va rattraper la salat. Et le musulman va lui dire rattrape. Cheikh l'islam a dit c'est étonnant. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala arham bil kafir bil muslim bil kafir. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala aime et pardonne aux musulmans beaucoup plus qu'un kafir. Alors comment le musulman va lui dire rattrape et le kafir on ne lui dit pas. Ensuite, deuxièmement, tu vas faire fuir les gens. Il va dire comment? Moi je dois rattraper salat de 25 ans. Ah c'est beaucoup, je peux pas. Donc il vaut mieux que je rentre pas en islam. L'islam c'est lourd, hein? Beaucoup de responsabilités. Je préfère rester comme ça. Donc tu vas être toi le fautif ou là tu vas faire la faute de l'éloigner et de le faire fuir de l'islam. Et premièrement, comme j'avais dit, il n'y a aucun délit. Et troisièmement, si tu lui dis va faire la prière, ou là, ceux qui prennent la fête ou peut en faire la prière, car certains ulama ont dit on l'a fait, regarde celui qui rattrape la prière, comment il l'a fait. Regarde-le. Il lui fait, rattrape, je vais voir comment tu fais. Il l'a fait très vite, sans trouchoir. L'essentiel quoi? L'essentiel, ce sont des dettes. Il veut payer ses dettes très vite. Il a terminé. Salam alaikum. Allez, l'as. Et comme ça. Pourquoi? Il a des dettes, il a une montagne sur ses épaules. Il veut payer ses dettes très vite, celui-là. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ. Lui, il n'est pas khashi' dans sa salat. Il veut la liquider. Il veut aller vite et la liquider. Non, celui-là, c'est pas la peine de lui dire de faire la salat, c'est mieux. Ensuite, autre chose de très important, c'est quoi aussi quelque chose de très important, c'est que Allah Azza wa Jalla a dit de faire la salat et a dit de la faire en son heure. On dit à cette personne, toi qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit je suis en train de faire la salat. On lui dit Masha'Allah, tu fais la salat. Mais Allah Ta'ala t'a dit fais la salat en son heure. Faut que tu la fais pas en son heure. À quoi ça sert? C'est comme ça qu'a dit Ibn Hazm rahimahullah. Il a dit on dit à cette personne, celui qui ne fait pas à l'heure, Allah l'aime ou là il est courroucé contre lui. Il a dit s'il dit il l'aime, on lui dit tu es un égaré. S'il a dit il est courroucé contre lui, on lui dit alors pourquoi on dit à quelqu'un fais la prière alors qu'on sait qu'Allah est courroucé contre lui? Non, lui de celui qui rattrape il ne fait pas à l'heure. Allah ne t'a pas dit fais la prière, il a dit fais la prière à l'heure. Alors voilà la condition, c'est une condition. Non, on est seulement yani, à un mawaqit salat. Je disais que salat c'est une adoration qui se fait à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré les cinq salats, quels sont leurs horaires. An Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit inna lis-salati awwalan wa akhiran. Il a dit la salat a un début et une fin. Chaque salat a un début et une fin. Non, il n'y a pas une salat qui n'a ni début ni fin. Chaque salat a un début et une fin. Ensuite, il a dit wa inna awwala waqti salati dhuhri hina tazul shams. Maintenant, comment on va savoir que c'est l'heure de salat dhuhr? Autrefois, il n'y avait ni la boussole, ni le calendrier, ni rien. Comment qu'on va savoir? Allah Azza wa Jalla qui a créé des gens et qui a obligé la salat savait qu'ils allaient vivre des moments où il va y avoir ni boussole, ni rien. Donc, il leur a facilité la chose avec quoi? En mettant des signes dans sa création, dans son monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la lune et le soleil et les étoiles qui servent à guider les gens. Tout est calcul. Que vous sachiez yani le nombre des années et vous sachiez aussi le calcul. C'est avec la lune et le soleil, etc., qu'on connaît les calculs, surtout la lune. Maintenant, il a dit Salat al-Dhuhr commence inda hina tazul shams. Quand quelqu'un, par exemple, plante quelque chose de beau, supposons que je plante, disons, une lance. Je prends une lance je la plante debout. Maintenant, s'il est par exemple 10 heures du matin et la lance est là plantée devant moi, je vois que le soleil est, yani l'ombre de la lance est d'un seul côté, ça, il n'est pas des deux côtés. Il est du côté où le soleil a frappé la lance, maintenant l'ombre est derrière elle. Plus le soleil monte vers le ciel, plus l'ombre de la lance que j'ai plantée, ou bien l'ombre de la personne qui est debout, je vois l'ombre qui commence à se rétrécir. Plus le soleil se lève, plus l'ombre rétrécit. Jusqu'à un moment où je vais voir, il n'y a d'ombre ni à droite ni à gauche. Il n'y a pas d'ombre. Ça veut dire que le soleil est au milieu du ciel. Le soleil est au milieu du ciel, en plein milieu, au zénith. Quand le soleil est au zénith, il est interdit de faire la nafila. Quand le soleil est au zénith, il est interdit de faire la nafila. Certains vont dire pourquoi. Pourquoi? C'est très simple. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand le soleil est au zénith, c'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges d'allumer Jahannam, de jeter à l'intérieur des choses pour qu'elles grandissent, Jahannam, pour que le feu grandisse. Yani, Jahannam, c'est comme une usine. Une usine qui travaille, il lui faut du bois, du charbon, etc. Jahannam, elle ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il lui jette des choses à l'intérieur, etc. Il lui jette des choses maintenant pour qu'elle puisse vivre. Un feu. Vous avez vu un feu, vous, qui peut tenir s'il ne brûle pas quelque chose, ou qu'il brûle quelque chose. Ça. Donc en ce moment, Allah Azza wa Jal fait Yusa'ir Jahannam. Donc Jahannam est allumé. Toi, tu ne fais pas la prière en ce moment. Le moment où Jahannam est allumé. Maintenant, quand elle est au zénith, elle va nous paraître qu'elle s'est arrêtée un certain temps. Un certain temps. Une minute ou quelques secondes, tu vois le soleil au-dessus de ta tête, tu dis, Allah, il ne bouge pas, il est là au-dessus de notre tête. Non. Mais en fait, le soleil ne s'arrête pas. Le shamsu tajri li mustaqarrin laha. Le shamsu tajri li mustaqarrin laha. Le shamsu tajri li mustaqarrin laha. Quand toi, tu ne bouges pas, des fois tu crois qu'elle ne bouge pas. Mais le soleil ne s'arrête jamais. Le soleil marche jusqu'à ce qu'il se couche. Ensuite il fait le tour et il revient le matin à la même place. Donc maintenant, quand le soleil est au zénith et on croit que Khlas s'est arrêté, on attend le moment, la seconde où il va déclencher de l'autre côté. Ça veut dire où l'ombre va commencer à sortir de l'autre côté, le côté opposé de la lance. Quand il y avait le soleil le matin, l'ombre était de l'autre côté. Maintenant le soleil au zénith, il n'y a pas d'ombre devant l'avance. Il n'y a pas d'ombre, ni à droite ni à gauche. Maintenant, quand le soleil va commencer à se déplacer vers l'ouest, il va y avoir de l'ombre de l'autre côté de l'avance. On dit c'est le zawal, c'est salat al-dhahr. Donc salat al-dhahr, c'est quand l'ombre va commencer à... On va commencer à voir l'ombre après que le soleil, on a cru qu'il s'est arrêté en plein milieu du soleil. Donc maintenant, c'est le dhahr. Donc combien qu'il y a au début du dhahr, combien qu'il y a d'ombre, il n'y a rien. Il y a seulement peut-être un centimètre d'ombre. Naam, le déclin du soleil. Jazakallahu khayran. Donc, quand le soleil a fait son déclin, c'est salat al-dhahr. C'est-à-dire, le déclin, c'est-à-dire khlas, il a démarré pour aller vers l'ouest. Le soleil, il fait deux grandes choses. Il part de l'est jusqu'au milieu du ciel, ensuite du milieu du ciel jusqu'à l'ouest. Ça, quand il est au milieu du ciel, zénith, on ne fait pas la salat, Jahannam. Maintenant, il a commencé à aller de ce côté, vers l'ouest, il y a déjà un peu d'ombre, il y a un centimètre d'ombre, khlas, c'est salat al-dhahr. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa akhiru waqtiha hina yadkhul waqt al-asr. Wa akhiru waqtiha, quand est-ce que ça s'arrête, salat al-dhahr? Salat al-dhahr, ça se finit quand tu entends le mu'adhan, il dit Allahu akbar, Allahu akbar, c'est salat al-asr. Donc le dhahr se finit quand rentre la prière du Asr. Mais quand est-ce que rentre la prière du Asr? Quand est-ce qu'elle rentre aussi? Un autre hadith qui est sahih, dans Sahih al-Jama' et bien sûr dans beaucoup de livres, dit que l'ombre dont je venais de parler,
Maintenant, puisque le soleil a commencé à aller vers l'ouest, l'ombre a commencé à grandir, à s'étaler. Quand l'ombre aura le même métrage, la même mesure, comment on appelle, la même longueur, quand l'ombre aura la même longueur que la chose que j'ai plantée, ça veut dire que c'est ça la classe. Non. Imagine que je dis à une personne qui mesure 1,70 m, je lui dis, mets-toi debout devant moi. Elle se met debout la personne, elle fait 1,70 m. Le soleil était au zénith, sur sa tête. Il n'y a rien, je lui dis, on ne fait pas la prière. Il n'y a pas d'ombre, ni à droite, ni à ta gauche. Maintenant, on va attendre un peu. Maintenant, parce que c'est Jahannam qui brûle, on ne fait pas la prière. Maintenant, le soleil a fait le déclin, je vois 1 ou 2 cm d'ombre. Je dis, subhanallah, khlas, on est salat al-dohr. Khlas, c'est bon. Maintenant, quand est-ce que je vais savoir si salat al-asr? Salat al-asr, quand je dois trouver, je vais mesurer l'ombre, je dois trouver 1,70 m d'ombre. Pourquoi? Parce que la personne mesure 1,70 m, cette personne de l'année haute, elle mesure 1,70 m. Donc si l'ombre c'est 1,70 m comme cette personne, ça veut dire que c'est salat al-asr. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna awwal waqt salat al-asr, salat al-asr c'est quand son début, hina yadkhul waqtuha. Et dans un autre hadith il a dit quand l'ombre est pareil à la chose qu'on a plantée. Donc quand l'ombre mesure la même chose que la chose qu'on a plantée, c'est en même temps la fin du vent et c'est en même temps le début du asr, bien sûr. Wa inna akhir waqtiha, akhir waqt l'asr, hina tusfarru ash-shams. Quand est-ce que l'heure de l'asr est terminée? L'heure de l'asr est terminée quand est-ce que, quand on voit que le soleil a jauni, tusfarru ash-shams. Le soleil à midi il est blanc. Salat al-Dhuhr il est blanc. Ensuite, Salat al-Asr il est toujours blanc. Ensuite, quand Salat al-Asr c'est terminé, on voit le soleil, il est jaune. Parce qu'il ne va pas tarder, il va rougir. Il ne va pas tarder, il va rougir. Donc, quand le soleil khlas n'est plus blanc, il est devenu jaune, ça veut dire que ce n'est plus Salat al-Asr. Et dans un autre hadith, pour bien montrer, il a dit Ida Sara Villo Mikley, il a dit pour que tu saches que Salat al-Asr est terminé, tu vas voir l'ombre. Il faut que l'ombre, la longueur de l'ombre, devienne deux fois la longueur de la chose que tu as plantée. Non. Si la personne mesurait 1,70 m, je dois trouver 3,40 m de mesure. Si je trouve 3,40 m d'ombre, ça veut dire que Salat al-Asr est terminé. Naam, salam alaikum, c'est terminé Salat al-Asr. Pourquoi? Parce que la personne fait 1,70 m et l'ombre fait deux fois cette taille, deux fois cette mesure, 1,70 m plus 1,70 m, 3,40 m. Donc Salat al-Asr est terminé. Donc j'ai deux délits. Ou bien je vois le soleil qui est jaune, ou bien je vois l'ombre qui est devenue deux fois plus grande que la chose qu'on venait de poser. وَإِنَّ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبِ الشَّمْسِ. Quant à Salat al-Maghrib, c'est simple. Salat al-Maghrib, c'est quand le soleil s'est couché. Tu vois à l'horizon, il n'y a pas de soleil. Mais attention, ce n'est pas s'il y a une montagne et le soleil est derrière la montagne. Ça, ce n'est pas Salat al-Maghrib. Quelqu'un va dire, Alhamdoulilah, je ne vois plus le soleil, je vais manger, Alhamdoulilah. Allez, bismillah, shurba ou zladiya, allez, je commence. Non, tu ne commences pas, le soleil est derrière la montagne. Viens, on va aller de l'autre côté, je vais te le montrer. Viens, on va aller de l'autre côté, je vais te montrer que le soleil est derrière la montagne. Mais il faudrait que le soleil se couche derrière la mer, à l'horizon, et pas derrière la montagne. Pour que tu ailles au bord de la mer et tu regardes. Quand tu vois que le soleil est descendu, de façon à ce que tu crois qu'il est rentré dans la mer, tu crois que le soleil, Allah, il s'est noyé, il est descendu dans la mer. Là, Inch'Allah ta'ala, c'est Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib a commencé. Wa inna akhir waqtiha hina yaghibu al-ufuq. Et quand est-ce que Salat al-Maghrib se termine? Lorsqu'il disparaît de l'horizon. Naam. Et Salat al-Maghrib, quand est-ce qu'elle se termine? Regardez, quand on fait Salat al-Maghrib, quand c'est Salat al-Maghrib, là, le soleil s'est couché, c'est Salat al-Maghrib. Quand le soleil se couche, l'horizon reste toujours rouge. Ça, il reste rouge. Il reste un certain temps, au moins une heure, moins un quart d'heure, il reste rouge. C'est-à-dire ce qu'on appelle yani, la beauté du coucher du soleil. Les gens vont spécialement au bord de la mer pour voir yani, le coucher du soleil, pour assister au coucher du soleil. Moins, quand le soleil se couche, le ciel a une très belle couleur qui est rouge ou bien rose. Tant que la rougeur reste toujours, tant que à chaque fois que tu regardes à l'horizon, tu vois qu'il est rouge, on est toujours Salat al-Maghrib. Donc, Salat al-Isha va commencer quand je regarde devant moi, je regarde l'horizon, je trouve qu'il n'y a plus de rougeur. Tout est devenu noir. Donc, Salat al-Maghrib se termine par le début de ça devient noir. L'horizon devient noir, il n'y a plus quelque chose de rouge. Et c'est en même temps la fin du Maghreb et c'est en même temps le début de la Isha. Car les deux salats se joignent, hein. Pour cette salat, c'est le début. Et pour la salat qui était avant, c'est la fin. Donc je résume, Salat al-Maghrib, c'est quoi? Ça commence par le coucher du soleil. Ça se termine par quoi? Ça se termine par la rougeur, je ne la vois plus. Je regarde à l'horizon, il n'y a plus quelque chose de rouge, tout est noir. Je regarde devant moi, je ne peux connaître personne, tellement c'est noir. Non. Maintenant, Salat al-Isha a commencé. Et Mata wa inna akhir waqtiha, pardon, inna awal waqt al-Isha, c'est l'akhir, hina yaghib al-ufuq, wa akhir waqtiha hina yanfasit al-layl. Non. Salat al-Isha, quand est-ce qu'elle se termine? C'est à minuit. Je ne veux pas dire à minuit, je veux dire le milieu de la nuit. Parce que minuit, c'est 0 h. C'est le milieu de la nuit. Toujours comment tu fais? Toujours pour savoir c'est quand le milieu de la nuit, tu vois quand est-ce que c'est Salat al-Maghrib. Supposons, je donne un exemple, c'est tout. Supposons Salat al-Maghrib, c'est à 18 h. Ensuite, tu vois quand c'est Salat al-Subh. Supposons Salat al-Subh, c'est à 4 h du matin. Et tu comptes. Tu comptes de Salat al-Maghrib à Salat al-Subh. Je vais compter moi 18 h. Bon. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. J'ai compté à 9 h. De 6 h du matin, de 6 h du Maghreb à 4 h du matin, j'ai compté 9 h, si je ne me suis pas trompé. Maintenant, 9 h, je les divise par 2. Combien ça donne? Ça donne 4,5. 10 h, on me dit 10 h. Alors, je répète. Bon, 4 h. 5 h, 6 h, pardon, j'ai dit le Maghreb 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, minuit. 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 10 h, barakallahu fik. Il y a 10 h de Salat al-Maghrib à Salat al-Fajr. C'est un exemple. Maintenant, les 10 h, je les divise par 2. Combien ça donne? Ça donne 5 h. 5 h. Et maintenant, je commence à compter à partir du Maghrib, je compte 5 h. J'ai dit le Maghrib, c'est 18 h. Donc, 19, 20, 21 h, 22 h, 23 h. Donc, Salat al-Isha, ça se termine à 23 h. 23 h, c'est minuit. 23 h, c'est le milieu de la nuit. Donc le milieu de la nuit, c'est pas toujours 0 h. Et comme j'ai dit, tu comptes du Maghreb à Salat al-Subh et tu divises par 2, et la chose que tu as divisé par 2, tu l'ajoutes à Salat al-Maghrib et tu vois combien ça donne. Donc beaucoup de gens se trompent, ils disent Alhamdoulilah, tant qu'il n'a pas appelé, le Mu'adhdhin n'a pas appelé Salat al-Fajr, je suis dans Salat al-Isha. Attention, Salat al-Isha, ça sort beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Des fois 11h, 23h, des fois minuit, des fois ça sort Salat al-Isha. Mais pas jusqu'à Salat al-Fajr. C'est pas vrai. Naam, ça c'est en ce qui concerne les salats. En ce qui concerne le dhuhr, c'est une sunna. C'est une sunna de temps en temps, quand il fait très chaud, dans les pays où il fait chaud, de ne pas la faire. De la retarder un peu. Dans les pays chauds, c'est une sunna de Salat al-Dhuhr, de la retarder un peu. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit, il a dit ebrid, ebrid, yani, laisse un peu que le temps se froidisse. Laisse un peu, il fait très chaud. Ensuite, il a dit ebridu bi salat, il parle de Salat al-Dhuhr. Il a dit, faites-la quand il fait un peu froid. Fa inna shiddat al-har min fayhi jahannam. Naam, fa inna shiddat al-har. Il a dit parce que cette chaleur, qui est très forte, c'est un peu un souffle de Jahannam. C'est ce qui nous vient de Jahannam. Et vous savez, il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Jahannam, Jahannam a ses plaintes. Jahannam s'est plainte une fois, Allah subhanahu wa ta'ala s'est plainte. Elle lui a dit, Akala ba'di ba'da. Elle lui a dit, je suis en train de me manger. Il n'y a rien. Qu'est-ce que je mange? Il n'y a rien à manger. Je suis en train de me manger. Comment je fais? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ. L'azur lui a permis à Jahannam qu'elle respire deux fois chaque année. Non. C'est comme une marmite, elle est couverte. Maintenant, c'est grave si on ne va pas la découvrir un peu pour respirer. Hein. C'est pour ça que vous remarquez, la cocotte minute, elle a quelque chose qui tourne. Hein. Qui tourne comme ça, qui fait sortir de l'air. S'il n'y avait pas de l'air qui sortait, la cocotte risquait quoi? D'exploser. D'ailleurs, je me souviens, comme aujourd'hui, j'avais peut-être 7 ou 8 ans ou 9 ans, je ne me souviens pas très bien de l'âge, j'étais assis en face de ma grand-mère, la Yahama, on était assis comme ça, dans la cour, quand Allahu Akbar, quand la cocotte minute a éclaté et elle est montée dans le ciel, je ne sais pas combien de mètres, et elle est descendue. Enfin, ce qui est monté vers le ciel, c'est le couvercle, bien sûr. Elle est montée, je ne sais pas combien de mètres, et elle est descendue. Non, pourquoi? Parce que il faut qu'il respire. Peut-être ce qui tournait était bouché, je ne sais pas quoi. El Mouhim Jahannam, Allah Azza wa Jal lui a permis deux fois par an de respirer. Il a dit, une fois quand c'est beaucoup chaud en été, une fois quand il fait beaucoup froid. Parce que Jahannam, elle contient de la chaleur, elle contient bien sûr, c'est beaucoup froid. C'est beaucoup chaud, c'est beaucoup froid. Donc, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous sentez beaucoup de chaleur, ça veut dire que c'est Jahannam qui a respiré en été. Et quand vous sentez beaucoup de froid en hiver, c'est Jahannam qui a respiré aussi. Deux fois, Allah Azza wa Jalla lui a permis qu'elle fasse cela. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, le dhuhr, on peut le retarder un peu à cause de qu'il y a beaucoup de chaleur. Les ulama ont dit, mais il faut des conditions. Premièrement, il faut qu'il fasse beaucoup chaud. Beaucoup chaud. Deuxièmement, il faut que ça soit dans un pays chaud. Hein? Il fait des fois chaud en France, il fait une fois chaud en France ou là. La France, c'est pas le pays de la chaleur. Et c'est un pays, par exemple, comme le Koweït, c'est un pays de chaleur. Très connu. C'est rare où il y a moins de 50. C'est connu. Donc, deuxième condition. Troisième condition, il faut que ça soit à cause de la prière dans la mosquée. On ne peut pas retarder Salat al-Dhuhr à cause du froid. On cherche le froid si on l'a fait à la maison. À la maison, tu as le climatiseur, tu as tout ce qu'il faut, tu l'as fait à l'heure. Mais c'est à la mosquée, c'est difficile. Il faut attendre les gens qui viennent. C'est pour ça qu'on peut la retarder un peu à cause de, on va la faire dans la mosquée. Voilà les conditions pour faire salat, pour retarder un peu salat al-dhuhr. Quant à salat al-asr, c'est une salat très très importante. Très importante. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Hadith il est dans le Bukhari. Il a dit, quiconque ne fait pas صلاة العصر فقد حبط عمله. Ses actions sont annulées. Ibn al-Qayyim a dit, mais en fait, quelles sont les actions qui sont annulées? Les actions du jour même où il n'a pas fait صلاة العصر, ou bien les actions du jour où il a fait le repentir. Si c'est les actions du jour où il a fait le repentir, c'est très grave à cause de Salat al-Asr qui nous passe. Et si c'est les actions du jour seulement, c'est grave aussi. Toutes les actions du jour de cette journée où tu n'as pas fait l'Asr ont été annulées. Donc c'est grave. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça qu'on raconte qu'il y avait un des salafs, rahimahullah, salaf salih, qui était en train de, je ne sais pas, de voyager ou je ne sais pas où. Ensuite, il a entendu des cris derrière lui, on l'appelait. Ya Foulan, attends, Ya Foulan. Il s'est étonné. On lui faisait des signes, attends. Il a commencé à dire, La hawla wa la quwwata illa billah, c'est sûr que c'est quelque chose de très grave. La hawla wa la quwwata illa billah, ya Rabbi, tabbit qalbi, ya Rabbi, tabbit qalbi. Ensuite, l'autre, il est arrivé à cheval, je ne sais pas quoi, pour souffler. Assalamu alaikum, salam, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, ne sois pas étonné, etc. Mais ton fils est mort. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? il a dit la hawla wa la quwwata illa billah. Tu m'as fait vraiment peur. J'ai cru que salat al-asr était terminé. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu m'as fait vraiment peur. J'avais cru que salat al-asr, khlas, c'était terminé et que je pouvais pas la faire. Yani mon fils, la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, pour eux, yani salat al-asr, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man salla al-bardain dakhala al-jannah. Il a dit quiconque fait salat sobh à l'heure et en groupe, si c'est un homme, et salat al-asr, il a dit celui-là il ira au paradis. Salat sobh et salat al-asr. Pourquoi spécialement sobh ou l'asr? Parce que ce sont des salats difficiles de yani, se réveiller à 4h du matin ou à 4h30, jeter la couverture, aller faire le wudu et ensuite aller à la mosquée. Vraiment difficile. Mais quand une chose est difficile et on l'a fait, c'est le délil de la foi. Naam, c'est le délil de la foi. Naam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sadaqatu burhan. Il a dit l'aumône, c'est un délil. Naam, il y a des choses qui sont des délils. Quand toi tu jettes la couverture, tu vas faire le wudu, tu vas à la mosquée, c'est un délil que tu as la foi. La foi, c'est pas seulement parler. Tu dis moi j'ai la foi. Ça ne sert à rien de parler. La foi, c'est les actions. Laisse-nous voir tes actions. Et ne dis pas j'ai la foi, et nous on va te dire tu as la foi. Laisse-nous voir seulement les actions. Salat al-asr aussi c'est difficile. Des fois on vient du travail fatigué, on dort. On se réveille, maghrib, on se réveille la nuit. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Et deuxièmement, c'est très important salat sobh et salat al-asr. Pourquoi? Parce que spécialement, en ces deux salats, sobh wa al-asr, il y a les anges qui viennent descendre du ciel. Car ils travaillent en groupe. Il y a un groupe qui est avec toi de Salat al-Asr jusqu'au matin, Salat al-Fajr. Ensuite, Salat al-Fajr, il y a un deuxième groupe qui vient, il prend la relève, et l'autre groupe qui a passé la nuit avec nous, il monte vers Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les actions que tu as faites, il monte, et l'autre groupe reste de Salat al-Fajr à Salat al-Asr. Et à chaque fois que ce groupe d'anges, comme c'est dans Sahih al-Bukhari, à chaque fois qu'il monte vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande comment avez-vous laissé ma créature? Il lui dit, ya Allah, on l'a laissé salat al-sabr. Ensuite le soir, comment avez-vous laissé ma créature? Ya Allah, on l'a laissé en train de faire salat al-asr. Voilà. Donc tu as des anges qui quoi? Qui font le témoignage pour toi. Tu as des anges qui font le témoignage. Ensuite, n'oubliez pas que les anges ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ataj'alu fiha man ataj'alu fiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك lorsqu'il a créé Adam, lui ont dit ya Allah, tu vas créer des créatures qui vont tuer des gens et qui vont yani, faire des problèmes dans la terre, parce qu'ils avaient vu les djinns. Ils avaient vu les djinns qui étaient créés avant Adam. Ils ont vécu sur terre, ils ont fait des crimes, etc. Ils ont cru qu'il allait créer quelqu'un comme cela. Ils ont dit ya Allah, تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء العزيز الأدي إني أعلم ما لا تعلمون. Je sais ce que vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il leur demande lorsqu'ils viennent après, lorsqu'ils montent, ils montent de la terre après cela, sauf qu'il leur demande comment avez-vous laissé ma créature? Ils disent en train de faire la salat. C'est comme s'ils disaient, vous vous souvenez, vous m'avez dit j'allais créer quelqu'un pour faire des crimes, etc. Regardez, vous l'avez laissé en plein salat. Ensuite la même chose salat l'asr. Comment avez-vous laissé ma créature? En plein salat. Vous vous souvenez, hein? Vous avez dit que vous allez créer ceci et cela. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, toujours dans le Bukhari, et beaucoup d'autres ont rapporté aussi ce hadith, il a dit Alladhi tafutuhu salatul 'asr ka'annama wutira ahlahu wa mala. Alladhi tafutuhu salatul 'asr ka'annama wutira ahlahu wa mala. Quiconque Salat al-Asr ne la fait pas jusqu'à ce qu'elle sorte, yani elle sorte de son heure, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. C'est la même chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Yani Allah Azza wa Jalla dit, quand tu ne fais pas la Salat al-Asr jusqu'à, là c'est le ghuroub, là il a fait l'appel de Salat al-Maghrib, c'est comme si quelqu'un venait d'un voyage, il arrive chez lui, on lui dit tous tes enfants sont morts, tes parents sont morts, tes oncles sont morts, tes biens, on les a détruits, on les a volés, on les a brûlés, ta voiture a été brûlée, tu n'as plus rien, tu n'as que tes vêtements et la hawla wa la quwwata illa billah. Quelqu'un qui n'a pas fait salat al-asr. Tellement c'est important. Et j'ai entendu dire, des gens par ignorance, mais ils ont de la sagesse. C'est pas un hadith, mais j'ai entendu. C'est ce qu'il disait, Matibkish, ala babak ida mat. Wubki, ala salat al-asr ida fat. Subhanallah al-azim. Matibkish, ala babak ida mat. Wubki, ala salat al-asr ida fat. Quelque chose en ce sens. Non, ils disent, ne pleure pas pour ton père s'il est mort, mais pleure, salat al-asr, et elle est passée. Non. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, autre chose, pourquoi salat al-asr aussi est importante? Salat al-asr, elle a été citée spécialement dans le Coran, où Allah Azza wa Jalla a dit, hafidu al-salawati wa salati al-wusta. Hafidu al-salawati wa salati al-wusta. Allah Azza wa Jalla a dit, yani, hafidu, faites les salats, toutes les salats, faites-les en l'heure, et spécialement salat al-wusta. Wa hada min bab madha, zikr al-khas, ba'd al-am. Allah a parlé de toutes les salats. Ensuite, il a dit salat al-wusta. Quand Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle d'une chose, quelque chose en général, ensuite il parle, après la généralité, il parle quelque chose en particulier, cette chose particulière rentre dans le général, mais il l'a fait sortir du général pour dire qu'elle est très importante. Naam, elle est très importante. Quand Allah Azza wa Jalla dit par exemple dans le Coran, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ورسله وجبريل وميكائيل وفي ورش وميكائيل دي quiconque est ennemi pour جبريل ennemi يعني de جبريل pardon من كان عدوا لله ennemi d'Allah وملائكته de ses anges ورسله et de ses prophètes وجبريل وميكائيل. Auparavant il a parlé des anges et maintenant il a fait sortir جبريل وميكائيل, il les a fait sortir des anges, il a cité en particulier. Pourquoi? C'est dire leur importance. Quand Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait sortir quelque chose, après avoir cité en général, il l'a fait citer spécialement en particulier, c'est pour son importance. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans le Coran et dans la Sunna en ce sens. Ici, il a parlé de toutes les salats. Il a dit, il faut faire toutes les salats à l'heure. Ensuite, il a dit, salat al-wusta. C'est salat al-asr. Pourquoi? Parce qu'elle est très importante. Dès que c'est salat al-asr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith sahih, dans le Bukhari Muslim, il a dit que lorsqu'il n'a pas fait, il n'a pas pu faire la prière, Yom al-Khandaq, il n'a pas pu faire la prière, c'était dans la, il y avait un jihad, la prière médiane, naam, salat al-wusta, la prière médiane, c'est salat al-asr. Un jour, il n'a pas pu faire la prière à cause des ennemis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un doua contre eux. Il a dit, Mala Allahu alayhim buyutahum wa quburahum naran. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils remplissent leurs tombes et leurs maisons de feu. Pourquoi? Kama shaghaluna an salat al-wusta hatta ghabat ash-shams. Comme ils nous ont, ils ont fait de sorte qu'on a, on a été distrait ou on n'a pas pu faire la salat, la prière médiane. Et fi riwaya, dans une autre version, shaghaluna, comment on dit shaghaluna? Shaghaluna an salat al-wusta, salat al-asr, naam. شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. الله سبحانه وتعالى remplisse leurs tombes et leurs maisons de feu. Pourquoi c'est important ici de dire une chose aussi? Beaucoup de gens disent on ne sait pas c'est quoi صلاة العصر. Non, ils nous ont détourné de صلاة العصر. Non, beaucoup de gens disent on ne sait pas c'est quoi صلاة الوسطى. C'est quoi صلاة الوسطى? On ne sait pas. Certains disent Dossier, disent Maghreb, ils ont dit toutes les salats. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, moi, alhamdoulilah, j'ai un hadith qui est dans Sahih Muslim et les autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit le mot Asr. Il a expliqué ce que salat al-wusta, c'est la salat al-asr. Il a dit dans le hadith de Sahih Muslim, il a dit Shagalouna an salat al-wusta, salat al-asr. Il a bien spécifié salat al-asr. Et quand on a un hadith sahih, je n'ai plus besoin de ce qu'on dit X ou les Y. X et Y. Malgré la science qu'il a, si ce qu'il a dit va à l'encontre d'un hadith, classe, X et Y. Je lui dis, Barakallahu fik, tu es un grand alim. Mais, pardon, il y a un hadith qui te contredit. Hadith sahih, qui te contredit. Et moi, Allah Azza wa Jalla m'a ordonné de suivre Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pas un autre au détriment d'un hadith. Donc le hadith a dit, il est clair. Il est dans Sahih Muslim, il a dit Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr. Pourquoi on l'a appelé Wusta? Certains ulama ont dit qu'elle s'appelle Wusta parce qu'elle est entre deux salats. Elle est entre deux salats de la nuit et elle est entre deux salats de la journée. Non, elle est entre deux salats de la journée et deux salats de la nuit. Comment cela? Les salats de la journée, on a Salat Subh et Salat Dhuhr. Deux salats de la journée. Ensuite, il y a l'Asr. Et après elle, il y a deux salats de la nuit. Salat Maghrib, Salat Isha. Et elle est où? Elle est au milieu. Donc Salat al-Asr est au milieu entre deux salats de la journée, Subh et Dhuhr, et entre deux salats de la nuit, Maghrib ou Isha. C'est pour ça que on l'a appelé Salat al-Asr. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نلتقي إن شاء الله تعالى بعد 10 دقائق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم On va commencer, Inch'Allah, vous écrivez les questions. D'abord, je voudrais dire, beaucoup de gens me demandent, qui c'est celui qui récite. Celui qui récite, il est très connu, tout le monde le connaît. Il s'appelle le Mshari, l'Afasi le Mshari. Mshari ibn Rashid l'Afasi. Mais cette façon de lire, c'est une riwaya de Khalaf. Ah, il ne lit pas ici Hafs. Il lit avec une autre lecture un peu spéciale. C'est pour ça que, inshallah ta'ala, j'ai choisi cette l'ukhra. Bon, première question, inshallah ta'ala, il y en a 10. Chaque question sur deux points. Première question, inshallah ta'ala, sur quoi, naam, Cheikh Mshari l'Ahfasi, sur quoi se base-t-on? Vous écrivez, sur quoi se base-t-on? Sur quoi se base-t-on? Après l'avortement, pour savoir, si le sang est considéré comme sang de lochi ou métrorragie. Je répète la première question. Sur quoi se base-t-on après l'avortement pour savoir si le sang Hada, s'il est considéré comme sang de lochi ou métrorragie? On doit se baser sur quelque chose pour dire, cette femme, tu termines la prière, ce n'est pas grave, c'est métrorragie, ou bien, non, tu dois t'arrêter, tu as les logis. On se base sur une chose, c'est quoi cette chose? Deuxièmement, le sang des menstrues se différencie, le sang des menstrues se différencie de celui des métrorragies. Naam, dam al-hayd, yani yakhtalif 'an dam al-istihada. Le sang des menstrues se différencie de celui des métrorragies par des signes. Quels sont ces signes? Vous devez en citer quatre signes qui montrent que ce sang, c'est un sang de menstrues et ce n'est pas un sang de métrorragie. Ceux qui vont répondre par le contraire, ça fait rien, j'accepte. C'est-à-dire, il me donne les quatre signes du sang des métrorragies. Allez, j'accepte. Donc vous êtes libre. Ou bien vous me donnez les quatre signes du sang des menstrues ou les quatre signes du sang des métrorragies. Naam. Troisièmement, l'époux, ou là le mari, peut-il cohabiter avec son épouse, c'est-à-dire faire un rapport, après la fin des menstrues? L'époux peut-il cohabiter avec son épouse après la fin des menstrues, ou bien faut-il d'abord qu'elle fasse le rosl? L'époux peut-il cohabiter avec son épouse avec la fin des menstrues, ou bien faut-il d'abord qu'elle fasse le rosl? Quatrièmement, après le début des menstrues, après le début de, des menstrues, le sang s'est arrêté de couler pendant 2 jours. Après le début des menstrues, le sang s'est arrêté de couler pendant 2 jours. Ensuite, il a coulé de nouveau. Ensuite, il a coulé de nouveau. Qu'en est-il pour les 2 jours? Qu'en est-il pour les 2 jours où il n'a pas coulé? Qu'en est-il? Je répète, après le début des menstrues, le sang s'est arrêté de couler pendant 2 jours. Ensuite, il a coulé de nouveau. Qu'en est-il pour les 2 jours? Une femme a eu des menstrues, elle a par exemple 7 jours. Le 3e jour, ça s'est arrêté. 2 jours, il n'y a rien eu. Ensuite, c'est revenu. Qu'en est-il pour les 2 jours? Est-ce que la prière, etc., est-ce qu'elle était pure ou là, elle était en menstrues? Ou là, on dit non, tu es en menstrues. Cinquièmement, pour celui qui cohabite avec sa femme en menstrues, pour celui qui cohabite avec sa femme en menstrues, quel est son péché et quelle est sa kafara? Pour celui qui fait le rapport avec sa femme en menstrues, quel est son péché et quelle est sa kafara? Sixièmement, qu'en est-il du sang qui précède l'accouchement de 15 jours et s'arrête? Qu'en est-il du sang qui précède l'accouchement de 15 jours et s'arrête? Ça veut dire, est-ce que c'est un sang de logis ou la métrorragie? Une femme qui, 15 jours avant d'accoucher, a vu du sang. Un jour ou là, 2 jours, il a coulé. Ensuite, il s'est arrêté. Ensuite, il n'a plus coulé jusqu'à ce qu'elle a accouché. Est-ce que les jours où il a coulé, est-ce que c'était des logis ou là, c'était des métrorragies? Septième question. Après la fin des menstrues. Et la vue des pertes blanches. Après la fin des menstrues et la vue des pertes blanches, un sang marron a coulé. Comment le considère-t-on, ce sang marron qui a coulé après que la femme ait vu les pertes blanches? Est-ce que c'est un sang de métrorragie ou est-ce un sang de menstrues? Huitièmement, combien restaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en logis le maximum? Combien restaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en logis le maximum? C'est-à-dire les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand elles accouchaient. Combien qu'elles restaient au maximum? 1 mois, 60 jours, 45 jours? Je l'ai cité. Combien qu'elles restaient? Neuvièmement, avant-dernière question, quel est le nombre de jours qu'il faut attendre si le sang n'arrête pas de couler? Quel est le nombre des jours qu'il faut attendre si le sang n'arrête pas de couler lors des menstrues, pour dire que ce sont des métrorragies? Je répète, quel est le nombre de jours qu'il faut attendre si le sang n'arrête pas de couler lors des menstrues pour dire que ce sont des métrorragies? Une femme qui a des menstrues, d'habitude elle a 5 jours. Maintenant, 6 jours il s'est pas arrêté. 7 jours, 8 jours, 9 jours. Combien doit-on attendre pour dire d'elle que classe, tu n'as plus les menstrues, toi, tu as des métrorragies? Combien qu'elle doit attendre? Dernière question. Quel est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah? Quel est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah? Naam. En ce qui concerne la femme qui se purifie en plein jour du Ramadan, quel est l'avis l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, en ce qui concerne la femme qui se purifie en plein jour de Ramadan, c'est-à-dire une femme qui, lorsqu'elle s'est levée le matin, elle avait les menstrues. On est en plein Ramadan, elle a les menstrues. Vers 10 heures, par exemple, elle s'est purifiée. Elle s'est purifiée. Bien sûr, elle doit faire le pour commencer au moins la salat. Au moins la salat. Mais quel est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin en ce qui concerne le jeûne? Est-ce qu'elle jeûne? Yani elle commence à jeûner à partir du moment où elle s'est purifiée, elle fait le rousl, ou bien elle ne jeûne pas et elle rattrape après un jour. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On commence Allah ta'ala par nos questions. Avant que vous me posiez la question, je réponds ici à une question aussi que j'ai ici qui dit. La question dit. Non, c'est pas ça, non. J'ai pas trouvé de questions. Allah la démonstration. Ah, khlas, non. La première question, enfin, dit, pouvez-vous répéter le hadith sur l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, concernant celui qui ne fait pas la salat n'est pas un kafir. L'avis, yani, sur quoi, Cheikh, on doit répondre sans réécouter le dars. Là, si vous voulez écouter le dars, ça ne fait rien. Si vous voulez écouter le dars, ça ne fait rien. Vous pouvez même vous aider par ce qu'il y a dans le blog, les questions-réponses sur les monstres, etc. Mais allez, celui qui répond sans réécouter quelque chose ou là sans voir le blog, il peut le mettre entre parenthèses. Quand il termine, il dit je n'ai ni lu ni réécouté. Il peut, s'il veut, ce n'est pas obligé. Al-Muhim, je disais, l'avis de Cheikh Al-Albani rahmatullah, qui n'était pas kafir, il s'était basé sur le hadith de Muslim, de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Shafa'at al-Malaika, Shafa'at al-Nabiyun, Shafa'at al-Malaika, Shafa'at al-Mu'minun, wa baqiyat Shafa'atu, Arham al-Rahimin, et qu'il a fait sortir des gens qui jamais n'ont fait de bien. Il a fait sortir des gens qui n'ont jamais fait sortir de bien. Il les a fait sortir quand? Après que les croyants avaient demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire sortir les gens qui faisaient la salat. Car les croyants ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui faisaient la salat avec nous, ils faisaient le hajj, etc. Ils sont en jahannam. Allah azza wa jal leur a demandé de les sortir. Ils sont connus car le feu ne mange pas les parties des ablutions. Ils les ont fait sortir. Donc, ceux qui font la salat, là, ils sont sortis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, bien après, a fait sortir avec sa propre intercession, a fait sortir des gens qui n'ont jamais fait de bien, jamais au grand jamais. Cheikh Al-Albani a dit, donc, les gens de la salat sont partis, ils sont restés ceux qui ne la faisaient pas et qui n'ont jamais fait de bien. Et le deuxième hadith, il s'est basé sur le hadith de celui qui était dans la tombe, et que Allah azza wa jal avait ordonné qu'on le fouette sans coup de fouet. Ordonné aux anges qu'on fouette ce mort sans coup de fouet, et il a commencé à faire des doigts jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait exaucé ses vœux. Il a rendu les 100 coups de fouet, il les a rendus un seul coup, et quand on l'a frappé, bien sûr, il s'est réveillé. Il a dit, pourquoi vous m'avez frappé? On lui a dit, tu n'as fait qu'une seule prière et son wudu. Cheikh Al-Albani a dit, rapprochez-vous de vous. Cheikh Al-Albani a dit, voilà une preuve que celui-là n'était pas kafir en ne faisant qu'une seule prière et son wudu. Pourquoi il a dit? Il a dit parce que Allah Azza wa Jalla a exaucé son dua. Et Allah a dit dans le Coran, wa ma du'a al-kafirin illa fi dalal. Du'a al-kafirin, leur dua, je les exauce pas, ils sont c'est dans l'égarement. Alors que celui-là, il a fait un dua dans la tombe, il l'a exaucé. Et il a été décrit qu'il n'avait fait qu'une seule prière. Il a dit donc, c'est une preuve qu'il n'était pas kafir. Quant à une deuxième question qui est là, une sœur qui fait la salat avec un pantalon et une tunique qui descend jusqu'au genou, sa salat est-elle valide est-elle autorisée à prier comme cela? Une sœur qui fait la salat avec un pantalon et une tunique qui descend jusqu'au genou, sa salat est-elle valide? Est-elle autorisée à prier comme cela? Premièrement, elle n'est pas autorisée à prier comme cela et sa salat n'est pas valide, les deux. Pourquoi? Parce que elle doit s'habiller avec quelque chose de ce qu'on appelle une, au moins une djebba ou quelque chose qui descend d'en haut et qui cache ses pieds. Quelque chose qui descend d'en haut et qui aille jusqu'en bas pour descendre ses pieds. Alors que celle-là, mal asaf, yani son pantalon est visible à partir du genou, on commence à voir son pantalon. À partir du genou, on commence à voir son pantalon. Donc la femme, elle fait la salade au moins dans un khimar et dira. Les dira qui commence des épaules et descend jusqu'en bas, plus un khimar sur la tête. Mais si elle laisse voir le pantalon à partir des épaules, à partir des genoux, premièrement ce n'est pas valable, et secondo, parce qu'elle s'est fait ressembler à un homme avec le pantalon. Le pantalon, quand la femme le met, il doit être couvert, si elle le met à cause du froid ou là, il doit être couvert de façon à ce qu'on ne le voie pas, à ce que personne ne sait qu'il y a un pantalon au-dessus d'elle. Ou à la rigueur, on ne voit qu'un bout en bas. Et pas un blue jean et quelque chose comme ça. Un pantalon, il est simple, à cause du froid, etc. Naam, autre chose, c'est écrit ici. Salam alaikum, j'ai un doute pour ce qui concerne les salats nafila. Par exemple, celles avant du dhuhr, pouvons-nous les faire au moment où l'adhan est terminé ou bien c'est avant? Et quel est le jugement lorsqu'un musulman dit à un autre musulman qui lui souhaite les pires choses au monde? Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Un musulman, normalement, ne veut à ses frères et à ses sœurs que du bien. Allah Azzawajal a dit, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens des choses qui sont bien, qui leur font plaisir. Ne dites pas aux gens, yani, des choses qui ne sont pas bien, les choses qui sont pires au monde. Ils lui souhaitent les choses qui sont pires au monde. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Personne de vous n'est croyant, ça veut dire n'est vrai croyant, que lorsqu'il commence à aimer aux gens ce qu'il aime à lui-même. Et bien sûr, on n'aime pas à nous-mêmes les pires choses. C'est la même chose, on ne doit pas aimer aux gens les pires choses. Quant à Salat al-Nafila, la Ratiba, elle commence après le Adhan. Quand vous entendez l'Adhan, il se termine, tu vas faire 4 avant Zohar. La Ratiba, elle se fait de préférence après le adhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadlou inshallah ta'ala, premier soual. Tfadl, bismillah ar-rahman ar-rahim. Tfadl. Bismillah ar-rahman ar-rahim. Ya Sheikh, pouvez-vous nous rappeler le cas des personnes pour lesquelles les péchés ne sont pas inscrits par rapport à ceux qui boivent l'alcool? Et qu'en est-il des personnes qui font du mal à autrui? Je ne parlais pas seulement de l'alcool. Je parlais en général, que quand quelqu'un n'est pas conscient, on voit, est-ce que son inconscience est venue d'une chose dont il n'est pas responsable, ou bien d'une chose dont il est responsable? Si c'est d'une chose dont il n'est pas responsable, comme la folie par exemple, l'enfance, il a 5 ans, il a 6 ans, là il est inconscient. Là, tout ce qu'il fait ne se marque pas contre lui, yani comme péché. Non. Mais l'enfant, parce qu'il est assez conscient, Allah lui compte les hasanettes qu'il fait, l'enfant. Le Majnoun, le fou, il lui compte pas, parce que celui-là, il est vraiment inconscient, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc toute personne qui est inconsciente, l'azul ne lui écrit pas le mal qu'elle fait, sauf quand elle est la cause de son inconscience. Si quelqu'un, par exemple, il va dire, je vais boire aujourd'hui. Ensuite, quand quelqu'un boit, il peut dire n'importe quoi, etc. Ça ne compte pas. Là, celui-là, il lui compte. Pourquoi? C'est lui qui s'est rendu inconscient. C'est pas de la folie qui est venue de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est lui, sciemment, il l'a fait exprès pour se rendre inconscient. Donc celui-là, naam, yani, tous les péchés qu'il va faire vont lui compter. Parce que il savait qu'il allait boire et qu'en buvant, il allait faire des péchés, mais il a dit ça ne fait rien, je l'ai fait. Seulement, en ce qui concerne le divorce, quelqu'un qui a bu, il est sous. La plupart des ulamas disent, quand il divorce, on accepte son divorce. Parce qu'il savait qu'il allait boire, et il savait que quand il allait boire, peut-être il savait pas ce qu'il allait dire, il va insulter, il va divorcer, donc il prend la responsabilité. Mais, Cheikh Ibn Qayyim, ala rahmatullah, et Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yahmou, on dit non. On dit, quand il est sous et il divorce, son divorce est nul et ne compte pas. Et il a des péchés à cause d'avoir bu l'alcool. Il a des péchés à cause d'avoir bu l'alcool. Maintenant, toutes ces personnes qui sont inconscientes, le fou, l'alcool, etc., toutes ces personnes qui sont inconscientes, si elles font du mal à autrui, elles doivent payer le mal. Non. Si elles brûlent une maison ou elles tuent quelqu'un ou là, elles doivent payer, même avec quoi? Même avec l'alcool. Si quelqu'un est sous, il a tué quelqu'un, il doit aussi payer. Il doit aussi payer. Si quelqu'un est fou, il a tué quelqu'un, maintenant qu'est-ce qu'on lui fait? Il est fou. On prend les tuteurs, on les gronde ou là on les met en prison là pour l'avoir. Et s'il le fou comme ça, très dangereux, avec un couteau, etc. C'est pour ça que s'il blesse quelqu'un ou là, c'est les parents du fou qui donne yani, l'assurance à le blessé. C'est eux qui lui payent les médicaments. S'il brûle une maison, c'est eux qui payent la maison. S'il casse un pare-brise, c'est le tuteur du fou qui paye le pare-brise qu'il a cassé, etc. Wallah subhanahu wa ta'ala, alam, tafadhal, prochaine question, inshallah. Wa alaykoum salam, nous voudrions un conseil de votre part sur la salat pour les frères et sœurs qui vous écoutent aujourd'hui, qui se trouvent en France, en Belgique et d'autres pays, car beaucoup d'entre nous, à cause de l'école, nous ratons des prières, ainsi que celle du vendredi. C'est un gros problème que nous avons et les situations avec nos parents ne sont pas toujours faciles. Que devons-nous faire? Que Allah vous augmente vos chances, vous préserve. Amin. Naam. Vous devez, inshallah ta'ala, premièrement, beaucoup penser à la hijra. Ça, on y revient à chaque fois parce que c'est très important. Beaucoup penser à la hijra. Quand quelqu'un a les moyens et l'occasion de sortir du pays où il ne fait pas la salat, qu'il sorte, yani, comme l'éclair. Pourquoi? Parce que la salat, ou le pays où je ne peux pas faire mon din, celui-là, c'est pas mon pays. Moi, si je vais en Arabie Saoudite, et on me dit, tu fais pas la prière, je quitte l'Arabie Saoudite, je n'aime plus l'Arabie Saoudite. Le pays, on me laisse pas faire le din, ce n'est plus mon pays. Al-Mohim, ça, c'est la première des choses. Et j'ai dit que, quand on a l'intention au cœur, c'est moins grave que celui qui ne l'a pas du tout. Hein, celui qui est là-bas, il dit, moi, je m'en fous, je suis là, tout va bien, alhamdoulilah, je suis à l'aise. Celui-là, s'il meurt, c'est grave pour lui. Au moins qu'il fasse l'intention, et s'il meurt là-bas, au moins il avait l'intention. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق لا حول ولا قوة إلا بالله. C'est dans le Bukhari. Il a dit, quiconque de ma nation meurt, il ne fait pas la guerre sainte. Ou bien, voilà ce qu'il a dit, ou bien ne fait pas l'intention dans son cœur, il meurt dans un rameau, des rameaux de l'hypocrisie. L'hypocrisie a beaucoup de rameaux, beaucoup de branches. Quiconque ne fait pas le djihad, ou bien toi tu vas dire, il n'y a pas de djihad maintenant. Les ulamas n'ont pas dit il y a le djihad. D'accord, ils ont pas dit il y a le djihad. Mais dans ton cœur, tu as fait l'intention que si jamais il y avait le djihad, tu l'aurais fait. Tu as fait l'intention que si tu étais par exemple au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais été de son côté contre Abu Jahl, tu aurais participé à Ghazwat Badr, etc. Maintenant c'est passé, khlas. Mais pour l'avenir, tu dis, si jamais il y a un djihad, si jamais les ulamas, le djihad, c'est pas toi qui le connais ou là c'est moi. Là, c'est pas le imam qui est en face de toi ou là dans la mosquée de ton quartier, il va dire c'est demain le djihad. Ou là c'est Ben Laden ou la Sakri. C'est pas ceux-là qui disent le djihad. Le djihad, c'est les grands ulamas. Quand ils font un rassemblement et ils disent voilà, c'est le moment du djihad. Donc quiconque n'a pas fait le djihad ou n'a pas fait l'intention dans son cœur, s'il meurt, la hawla wa la quwwata illa billah, il meurt dans un rameau d'hypocrisie. La même chose pour la hijra. Si au moins tu mets dans ton cœur que, inshallah, dès que la subhanahu wa ta'ala m'ouvrira les portes, je partirai. Au moins si tu meurs, alhamdoulilah, tu l'avais dans le cœur. Je disais, na'am, la salat, c'est très important. Il faut faire le possible pour la faire. Allah Azza wa Jalla a permis
même de faire la salat debout, sans inclinaison et sans prosternation. Pour celui qui est debout et qui ne peut pas ou de qui a peur, il l'a permise assis, il l'a permis allongé, il l'a permis avec le taïmoum. Au moins, il se permet de joindre entre deux salats. Tu dis, il est une heure, il est midi par exemple, si je sors, je sais que je ne vais pas revenir jusqu'à la nuit et je n'ai aucun endroit où faire la prière. Au moins, tu avances. Tu fais dhor et l'asar et tu sors. Au moins, tu avances les deux. C'est mieux que ne pas la faire du tout. Revenir yani, le soir à minuit et faire le dhor et l'asar. Yani, celui qui groupe la salat, c'est mieux que celui qui ne fait pas du tout. Yani, ce n'est pas une raison valable pour tous les jours, mais c'est une issue. Une issue, c'est, comme on dit, le moindre moelle. Shar ahwan min shar. Akhaf dararain. Naam. C'est une issue. Yani, pour au moins je l'ai fait regrouper, celui qui l'a fait regrouper mieux que celui qui ne l'a fait pas, ne l'a fait pas du tout. Donc vous devez inshallah ta'ala chercher un moyen, comment quoi, yani comment faire la prière hadi, au moins regrouper si ce n'est pas à l'heure, au moins hein. Mais il faut chacun fasse son possible pour la faire à l'heure et qu'elle soit pas groupée. Hadi, c'est la première des choses, il faut qu'il essaye de la faire à l'heure. Yani, juste quelques minutes, rentrer dans un bureau, la faire très vite, ou la rentrer dans un côté, ou là je ne sais pas où, et la faire. De toute façon, fattaqullah subhanahu wa ta'ala mastata'tum. Fattaqullah subhanahu wa ta'ala mastata'tum. Quand tu es dans le bus pour aller à l'école ou là tu sors de l'école, tu sais qu'il reste par exemple une demi-heure ou là, et que si tu arrives à la maison, khlas, ce n'est plus l'heure de la prière. Tu l'as fait dans le bus. Ah si, même si tu connais pas la qibla, ça ne fait rien. Tu dis Allahu Akbar et tu l'as fait avec la tête seulement, avec la tête. L'essentiel, c'est de ne pas arriver à la maison et la prière est déjà sortie. Tu peux la faire dans le bus, inshallah ta'ala, même assis, même au bureau, dans un bureau. Si tu sais que yani, vraiment tu peux pas la faire, tu n'as que monsieur une femme et devant nous. Naam. Si une femme est devant nous, il ne faut pas que la femme soit dans ta qibla. Si la femme est entre toi et la qibla, tu ne peux pas la faire. Mais si la femme est devant toi, tu mets quelque chose entre toi et la femme. Si la femme est dans la qibla, tu fais quelque chose qui soit haute d'un demi-mètre, tu la poses entre toi et cette femme. Yani, s'il n'y a pas un demi-mètre, ma'alish, 30 cm, 25, Cheikh Al-Albani a dit au moins chibre, au moins un mampon yani. Sutra, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Prochaine question, inshallah. Pour le temps de salat al-duha, qui est une salat nafila, jusqu'à quelle heure peut-on la prier, sachant que le dhar est à 12h45, midi 45. Naam. Le dhar, il commence à midi 45. Tu peux faire la prière de la Dhuha juste avant que le soleil ne soit au zénith, avant que le soleil ne soit au milieu. Quand il est au milieu, tu peux plus faire la Nafila. Avant cela, toi tu peux la faire. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est au zénith chez vous, je ne sais pas c'est quand est-ce qu'il est au zénith. Quand il est en plein milieu du ciel, on ne peut pas faire la salat. Donc tu la fais, tu la laisses au moins une demi-heure avant qu'il ne soit au zénith. Donc tu as à peu près de 8h du matin, ou là je ne sais pas quand est-ce que le soleil se lève chez vous. Quand le soleil se lève, il monte bien au ciel, il monte assez au ciel. Yani, de ce moment-là, une demi-heure avant salat al-dhuhr, inshallah ta'ala. De ce moment jusqu'à une demi-heure avant salat al-dhuhr. Naam. Salat al-dhuhr, le maximum c'est 12. C'est 12 rak'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, il a dit on l'a fait jusqu'à 12, mais lui il n'a pas fait plus de 4. Lui, avec ses actes, il a fait seulement 4, et avec ses paroles il a dit on peut faire jusqu'à 12. Tafadhal inshallah. Si nous avons du sang humain ou du sang animal sur les habits, pouvons-nous prier? La fièvre est tel le feu de l'enfer que j'ai dans la jahannam pour l'alimenter. Naam, en ce qui concerne le sang humain, le sang humain se divise en deux. Naam, tout le sang humain, en général, c'est une règle, tout le sang humain est pur, il n'est pas souillé, sauf le sang qui sort des parties intimes par devant, ou là le sang qui sort par derrière, soit l'homme soit la femme. Quand je dis la femme, ça veut dire les menstrues, etc. Et quand je dis l'homme, il est possible qu'il lui sorte du sang, il est possible qu'il tombe malade par devant ou par arrière, c'est najis. Tous les autres sangs des êtres humains, il n'est pas najis, à part bien sûr les menstrues, les logis. Tous les autres sangs, si on a du sang, on se blesse, il y a du sang qui coule, on a du sang qui coule du nez, on a du sang qui coule des oreilles, on a du sang qui coule de notre tête, on s'est blessé à la tête, il y a du sang qui coule. Tout ce sang n'est pas souillé. Tu peux faire la prière avec lui. Avec ce sang, tu peux faire la prière. Seulement, si tu peux l'enlever, c'est mieux. En quoi ? En quel sens ? En ce sens que, quand tu fais la prière, yani tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'azim, le sublime. Allah subhanahu wa ta'ala, le transcendant, aime que quand on aille vers lui, on aille dans la plus belle parure. خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Et prenez votre parure dans chaque masjid. Ça veut dire chaque salat, chaque prière, on doit prendre notre parure. Ça veut dire on ne fait pas comme les frères qui vont à la prière avec la combinaison du mécanicien, plein, toute noire, plein de graisse, et il dit Allahu Akbar. Tu lui dis pourquoi ? Il te dit c'est pas de la souillure, c'est halal, c'est pas najasa la graisse. Ça, c'est pas najasa. Mais tu as pris ta parure, toi, avant la prière. خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Tu as pris ta parure avec la graisse, tu l'as pas prise. Qu'est-ce qui t'empêche au travail d'avoir un qamis avec toi dans un sachet? Un sachet dans ma poche, et dans ma poche, dans l'intérieur du sachet, il y a le qamis. À chaque fois que c'est la prière, je prends le qamis, je le mets sur ma combinaison, je fais la prière. C'est difficile ça? Al-Muhim, quant au sang d'animal, on voit l'animal, chaque animal, on le divise par deux. On dit, est-ce que cet animal, si on l'égorge, il se mange ou il se mange pas? Si l'animal s'égorge et se mange, son sang n'est pas souillé. Et si l'animal, tu ne peux pas l'égorger, ça veut dire il se mange pas, son sang est souillé. Donc, c'est la règle. Je regarde, je me dis, j'ai du sang sur mes vêtements. C'est le sang de quoi? C'est le sang d'un mouton. Alhamdoulilah, le mouton se mange. Donc, son sang n'est pas souillé. C'est le sang d'un lapin, alhamdoulilah, le lapin se mange. C'est le sang d'une poule, la poule se mange. C'est le sang du porc, a'oudou billah, le porc ne se mange pas. C'est les kuffars qui mangent le halouf, moi je ne le mange pas. Donc celui-là, ce sang est souillé, je ne peux pas faire la prière avec. Pour Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala lui jette des rochers. Naam, wa'oudouha nasu wal hijara. Il lui jette des rochers et il lui jette aussi les êtres humains, mais les êtres humains, maintenant, il ne les a pas encore jetés. Pourquoi? Parce que ils sont pas encore, c'est pas encore le jour du jugement dernier. Mais le jour du jugement dernier, il va jeter des rochers et il va jeter des êtres humains à l'intérieur. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quel est le rapport entre les rochers et ces êtres humains qui sont jetés? Le rapport, c'est qu'ils se ressemblent. Il y a un et le rocher. C'est quelque chose de qasi, hein, quelque chose qui n'est pas doux, qui n'a pas de rahma. On dit celui-là, c'est comme un rocher, il a un cœur comme un rocher. Et les personnes qui viennent jeter, c'est la même chose. Ils ont des cœurs comme des rochers, durs. Ils n'ont pas connu Allah, ils n'ont pas fait la prière, ils n'ont rien fait. C'était des rochers qui parlaient. Non. Au contraire, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il y a des rochers mieux que des personnes. Non. Il a dit qu'il y a des rochers mieux que des personnes. Quand Allah dit dans le Coran, فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. C'est pas ici. Il a dit, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا مِنْ حِجَارَةٍ يعني لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. يا دي روشي qui éclatent et font sortir de l'eau. Et il y a des rochers qui tombent. Ils tombent de en plein, ils sont sur la montagne, ils tombent tellement ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des rochers qui sont mieux que des personnes. Quand vous voyez un rocher tomber d'une montagne, c'est qu'il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tombé, il est descendu. Et vous voyez comment des rochers, il y a des sources qui sortent des rochers. Donc ces rochers sont mieux que les personnes que Allah azza wa jalla jette dans Jahannam, wa la iyadu billah. Prochain soual, tafaddal. Mais maintenant, comme je disais, il n'a pas encore jeté, c'est pour ça qu'elle demande, c'est pour ça qu'elle demande de Allah subhanahu wa ta'ala de la laisser respirer deux fois, par quoi? Par année. Car elle est en train de se manger elle-même. Comme elle a dit, ekala ba'di ba'dan. Je me suis mangé, ya Allah, je me suis mangé, laisse-moi, yani fais-moi une solution. Il lui dit, respire. La fièvre est-elle le feu de l'enfer? Na'am, la fièvre, c'est un petit, yani quelque chose de l'enfer. Na'am. C'est un petit, comment dirais-je? C'est un petit échantillon. C'est un petit échantillon de l'enfer. D'ailleurs, l'Azawajil, quand il se donne Jahannam, quand il nous donne le Hummahadi, la fièvre, premièrement, elle t'annule tes péchés. Et deuxièmement, tu dois aussi te rappeler qu'il y a quelque chose qui attend, qui est beaucoup, beaucoup plus chaude que celle-là. C'est pour ça que dans la Sunna, quand on a la fièvre, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu de quelque chose de glacé et on la met à l'endroit où on a la fièvre. Maintenant, par exemple, on va au frigo, on enlève un peu la glace, on la met dans une serviette, on pose la serviette avec des glaces à l'intérieur sur le front de la personne. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Tafaddal inshallah, prochain soual. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'afiyana min jahannam. Est-ce que les prières que l'on regroupe à cause du travail du cours, peut-on les faire en avance, c'est-à-dire regrouper dans les as à l'heure du dhuhr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu vers quelqu'un. Le hadith, le Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans un de ses livres. Je crois que c'est la sahiha. Il lui a dit, à peu près dans son sens, il lui a dit, ya Rasulallah, yani, dis-moi ce que je dois faire en islam, essaye de me le grouper. Dans une phrase, il lui a dit à peu près, il lui a dit, essaye de faire une petite prière, les cinq prières à la mosquée. Essaye de faire les prières à la mosquée. Il lui a dit, inna li sa'at, ou inna fi hadha sa'at li shughl. Il lui a dit, mais yani, beaucoup de moments où j'ai des choses à faire, yani, je travaille, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, ihris, yani, ala salat subh wal asr. Il lui a dit alors, essaye au maximum de faire salat al-asr et salat subh dans la mosquée. Les ulama ont dit, voilà une preuve que quelqu'un, pour le travail, il peut ne pas faire quelques salats dans la mosquée. À cause du travail, certaines personnes peuvent ne pas faire certaines salats dans la mosquée. À cause du travail, il ne peut pas laisser le travail et aller à la mosquée. Comme celui-là a dit au professeur Sam, il lui a dit, je travaille. Donc le professeur Ali Sassoum lui a dit, au moins, essaye de faire l'asr, yani, et soupl dans la mosquée. Et, inshallah ta'ala, l'amr wasi'a. Maintenant, peut-on les faire à l'avance? Quand c'est salat al-dhuhr, khalas, c'est salat al-dhuhr, je peux avancer l'asr avec l'dhuhr. Naam. Je regroupe, comment je fais pour regrouper? J'attends que salat al-dhuhr rentre. Quand c'est salat al-dhuhr, qu'est-ce que je fais? Je fais en même temps l'asr. Je dis salam alaykoum après salat al-dhuhr. Je fais l'iqama encore une fois. Allahu akbar, qad qamat salat. Ensuite, je fais salat al-asr. Naam. On les regroupe, yani, au début de la première salat. Tfaddal, inshallah. Excusez-moi, cher. Concernant le sang de l'animal, celui qu'on mange comme le mouton, son sang est pur après l'égorgement ou même en étant vivant, par exemple, une blessure. Non. Attends, il faut que je comprenne d'abord. En ce qui concerne le sang de l'animal, celui qu'on mange comme le mouton, son sang est pur après l'égorgement ou même en étant vivant, par exemple, une blessure. Là, je ne suis pas très sûr. Il faut que je cherche et que je demande. et que je lise. Naam. Après l'égorgement, c'est sûr. Après l'égorgement, même son urine est pure. Comme Abdullah ibn Mas'ud a égorgé un chameau, hein, il s'est rempli de sang, etc. Et il a fait la prière avec. Naam. Mais avant, il faut que je cherche, Inch'Allah ta'ala, pour te répondre. Il faut que je cherche. Est-il permis de prier les prières surérogatoires, comme celle des ablutions, quand on entre à la mosquée, à la prière de consultation? Est-il permis de prier les prières surérogatoires, comme celle des ablutions, quand on rentre à la mosquée, la prière de consultation? Non, c'est pas bien compris la question, c'est pas bien posé la question. Pour l'animal, même pour l'animal, après avoir été égorgé, son sang, son urine et ses excréments sont purs. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ajoute encore une chose. Je dirais que je crois, il me semble, d'après ce que je sais, il me semble que son sang, même avant d'être égorgé, il est pur. Il me semble. Pourquoi? Parce que les animaux qu'on mange, même avant d'être égorgés, son urine est pure. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens qui étaient malades pour boire l'urine des chameaux. Le chameau, il n'a pas été égorgé, il est vivant et son urine est halal, n'est pas souillé. Donc les excréments et l'urine des animaux qui ne sont pas encore égorgés, yani ne sont pas souillés avant l'égorgement et après l'égorgement. Inch'Allah ta'ala. Pour la question hadith, je n'ai pas comprise. Est-il permis de prier les prières surérogatoires comme celle des ablutions quand on rentre à la mosquée, la prière de la consultation? Quand on rentre à la mosquée, il n'y a pas la prière de la consultation, il y a la prière de la mosquée. Quand on rentre à la mosquée, on a fait les ablutions. Au lieu de faire deux rak'at des ablutions et deux rak'at de la mosquée, on peut faire seulement ceux de la mosquée. Ils suffisent et sont à la place des deux des ablutions. Mais la consultation, je ne vois pas ce que ça vient faire dans la mosquée. Une autre question. Celui qui prie chez lui, a-t-il la récompense de 27 degrés de la salat en commun? L'homme qui prie chez lui n'a pas cette faveur. Parce que beaucoup de ulama ont dit, il n'a aucune salat. Beaucoup de ulama ont dit, quand il prie chez lui sans excuse, il n'a aucune salat. C'est comme il n'avait pas fait de salat. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la salat. Il n'en a pas. Men sami anni da falam yujib, fa la salat alahu, illa min azar. Illa en arabe, nafiya lil jins. C'est-à-dire, il n'y a pas de salat. Maintenant, si on dit pas nafiya lil jins, si nafiya lil jins, on va pas, yani, nahmilu ala nafiya lil jins, al aqal aqrab al majazain, ma huwa nafiya sihha. Alors, au moins on dit, le prophète a dit, il n'y a pas de salat. Pour celui qui entend la prière, il ne va pas à la mosquée s'il n'a pas d'excuse. Il a dit, il n'y a pas de salat. Et pourtant, on voit une personne faire la salat. Comment il a dit, il n'y a pas de salat, alors que, voilà, cette personne, on voit la salat. Il y a la salat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire, la salat n'est pas acceptée. La salat n'est pas valable. Mais si quelqu'un est loin de la mosquée, ou bien il est malade, ou bien il est fatigué, ou bien il a ceci, il a cela, il a une excuse, il a sa mère qui va agoniser, il a son fils qui est malade, ça c'est autre chose, Inch'Allah ta'ala. Mais je parle de celui qui n'a aucune excuse et ne va pas à la mosquée. Maintenant, pour savoir la mosquée, est-ce qu'elle est loin ou elle n'est pas loin, pour calculer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man sami'a an-nida, il a dit, quiconque entend le adhan. Maintenant là, il faut bien rappeler une chose très importante. Entendre l'adhan, ça veut dire, si l'adhan, le mot adhan, fait un adhan, et il n'y a pas de vent, par exemple, car le vent peut détourner l'adhan, l'orienter vers une autre orientation. Il n'y a pas d'immeuble, car les immeubles ne laissent pas le adhan venir, ça coupe. et le muezzin doit avoir une voix, yani, une voix forte. Et non pas par exemple de nos jours avec l'akhor, avec le micro. Maintenant, certains muezzins, ou la plupart, le font avec le micro. Quand ils font avec le micro le muezzin, il peut le faire parvenir jusqu'à 2 ou 3 kilomètres. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait du adhan, il parlait du adhan sans micro. Naam. والأحكام منوطة بماذا؟ بالمعهود الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم. والأحكام تفهم على المعهود يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. Donc moi quand il le fait avec le adhan avec le micro m'intéresse pas. Moi je voudrais, je parle de celui qui fait sans micro. Celui-là si je l'entends et je ne vais pas faire la prière, j'ai le ith. Mais s'il fait avec le micro, avec le micro, il peut me faire parvenir son sang à 3 km. Naam, quand c'est calme, un petit village, à 3 km, tu entends le adhan. Et pourtant, tu n'es pas obligé d'aller à 3 km. Car s'il avait fait son micro, je l'aurais pas entendu, pas plus peut-être de 200 ou 300 mètres. Naam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Maintenant, la même chose, quand par exemple en Europe, j'entends pas le adhan. Il y a pas de adhan, c'est interdit. La hawla wala quwwata illa billah, c'est interdit. Bref. Quand c'est interdit, il faut que je fasse des calculs. Je me dis, et si quelqu'un, avec une forte voix, etc., fait un adhan normal, combien à peu près, à combien de mètres, par exemple, le ferait-il parvenir? Si tu fais des calculs, et tu arrives, par exemple, que il le fait parvenir à peu près 200 mètres, tu calcules. Tu dis, donc, ah, je vais voir combien il y a de ma maison à la mosquée. S'il y a 200 mètres, par exemple, tu es obligé d'aller faire la prière là-bas. S'il y a plus, tu n'es pas obligé. Non. On doit calculer, si un mu'adhan fait l'appel, sans micro, combien de la distance à laquelle il va faire parvenir son adhan. Fadlan, inshallah, la prochaine question. Doit-on lever l'enfant de 7 ans pour Salat al-Fajr et comment frapper l'enfant de 10 ans? Naam, l'enfant de 7 ans, hein, on le lève s'il peut, on essaye. Une fois par mois, une fois par 15 jours, on essaye. Maintenant, c'est les enfants, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Nas ma'adin, ce sont des métaux. Ça dépend quel métal Allah t'a donné, et ça dépend quel métal tu as formé toi avec ta formation et ton éducation. Il y a le métal, l'enfant qui, yani, mashallah, il aime la salat, dès que tu le réveilles, il est content. Et il y a d'autres, yani, s'il pouvait, nous disait des choses quand on les réveille. Donc, toi tu essaies, c'est tout. Si inshallah ta'ala ça marche, ça marche pas, tu as jusqu'à quoi? Jusqu'à 10 ans. À 10 ans, on commence à frapper, on frappe pas le comme frappe les juhel. On frappe pas qu'on frappe les johel et qui croient que c'est de l'islam. Il frappe avec une barre de fer. Ou là, il va le frapper jusqu'à lui casser la colonne vertébrale. Ou là, il va le frapper jusqu'à ce qu'on l'emmène à l'hôpital. Ensuite, il dit, c'est l'islam qui a dit ça. Ah, c'est l'islam, hein. Le prophète a dit, il faut le frapper, hein. Le prophète n'a pas dit, il faut le tuer. Il t'a pas dit, il faut le massacrer. Il t'a dit, donne-lui une petite tape dans les fesses. Donne-lui une petite tape dans les fesses, ou la grande leuf et lui fait peur. Comme ça, la prochaine fois, il a peur de toi. Mais, on peut faire peur à quelqu'un en le frappant avec un siwak. On peut ne pas lui faire peur en le frappant avec une barre de fer. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désengage, et l'islam se désengage de celui qui frappe quelqu'un, darb mubarrih. Ou bien il frappe sa femme. Darb mubarrih. Quiconque frappe sa femme jusqu'à lui faire couler le sang, ou la faire tomber par terre évanouie, ou la lui casser son nez, ou là l'islam se désengage de cet acte, et l'islam se désengage de ce qu'a fait cet homme. Voilà, hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tafadhal, inchallah, prochain soual. Lorsque nous rentrons à la mosquée, il faut faire d'abord un doigt. De toute façon, Allah, alhamdoulilah, ça m'a beaucoup plu maintenant quand on a changé de, yani, on ne donne plus le micro. Pourquoi? parce que yani, on ne restait pas dans le dars, on posait n'importe quelle question qui est très loin du dars, alors qu'il y a des gens qui ont des problèmes sur le dars. Quand ils entendent, il y a des machakils. Quand ils entendent, il n'a pas bien compris ou là, il a pensé à une chose. Donc yani, répondre à quelqu'un à son dars est beaucoup plus important que répondre à des choses yani, qui sont loin. Inch'Allah, on fera une heure ou là spécialement pour yani, questions libres. Lorsque nous rentrons à la mosquée, il faut d'abord faire un doua. Ensuite, tahiyat al-masjid, ensuite nous pouvons saluer les gens. Donc je ne dois pas dire le salam aux gens dans la mosquée avant tahiyat al-masjid, est-ce exact? Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas quelque chose qui dit qu'on ne dit pas salam alaykoum aux gens jusqu'à ce que on fasse la prière de la mosquée. Je ne connais aucun hadith qui dit cela. J'ai entendu des gens dire cela, mais je ne connais pas un hadith qui dit qu'il est interdit de dire aux gens salam alaykoum. Je ne connais pas cela. Surtout si lui te dit salam alaykoum. Alors si quelqu'un te dit salam alaykoum et tu lui rends pas, tu as un ithm. Car l'Azhar a dit, quand on vous dit salam, tu dois lui répondre. Donc je ne connais pas un hadith qui dit qu'on commence spécialement avec tahiyat masjid, ensuite on va dire aux gens salam alaykoum. Maintenant, quand on rentre à la mosquée, si les gens sont loin, bien sûr, on commence avec la prière de la mosquée ici. Mais si juste en rentrant, il y a les gens devant moi, ils sont là à gauche et à droite, et je vais passer un peu plus loin pour faire tahiyat masjid. Je leur dis salam alaykoum, et je vais faire tahiyat masjid. Et si quelqu'un a un hadith qui dit que c'est interdit, qu'il nous l'apprenne, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Prochain soual, inshallah. J'avais oublié que pour l'akhar. Non, j'avais oublié de dire que vous m'envoyez les réponses du contrôle à cette adresse. C'est pas au Hotmail. Là, vous me répondez à cette adresse. Non, gmail.com. Voilà, vous me rendez. Vous allez me rendre les contrôles à cette adresse. Apprendre l'islam, gmail. .com, c'est pas co, pardon, .com. Non, c'est pas co, hein. Com. Non. S'il n'y a plus de questions, pour que Inch'Allah Ta'ala, je donne à libre à certains pour qu'ils commencent. Hein. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis déconnecté. Là, j'ai saut. Non. Où est-ce que j'étais? Non. Répondez-moi. Est-ce qu'il n'y a plus de questions pour que je donne aux autres? Salam alaikum, comment faire concorder le hadith où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui entend le adhan? J'ai des questions. Ah, d'accord. Oui, dit que celui qui entend le adhan et n'y répond pas, n'a pas de prière, sauf s'il a une excuse. Il l'a bu'ud avec le hadith de l'aveugle qui avait une excuse et qu'il a été ordonné d'aller au masjid. Naam. Quand quelqu'un est aveugle, et trouve quelqu'un qui le prend à la mosquée, il n'est plus excusé. Quand quelqu'un, même avec la cécité, il ne voit pas, et s'il trouve quelqu'un qui l'emmène à la mosquée, il n'a plus d'adr. Et cette personne trouvait quelqu'un qui l'emmenait à la mosquée. Elle n'était pas assez bien cette personne, il a dit la layoula imoni, mais il a trouvé quelqu'un qui le prenait à la mosquée. Quiconque qui est aveugle et trouve quelqu'un qui l'emmène à la mosquée, il doit aller faire la salat à la mosquée. Maintenant, si cette personne ne vient pas pour te prendre à la mosquée, et tu connais pas la route toi-même, tu l'as fait toi-même. Pardon, tu l'as fait à la maison. N'am? Y a un de quoi, inshallah ta'ala. والله سبحانه وتعالى أعلم. فضلا إن شاء الله بروشان سؤال. Qu'en est-il des personnes qui joignent les prières d'Oras pour n'importe quelle raison dans la vie de tous les jours, même pour dormir? Naam. Des fois, quand on est vraiment fatigué, on est ce qu'on appelle claqué. Des fois, on est très fatigué, on est claqué. On peut joindre entre les deux salats pour dormir. Naam. Mais quand on ne le fait pas tous les jours, quand on le fait des fois, on est tellement fatigué. Je sais que si je vais dormir, je vais pas me réveiller tellement je suis fatigué. On peut faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait sans raison pour montrer que ça se faisait. Mais ceux qui font comme ça tout le temps, sans raison, ceux qui font dans la vie de tous les jours comme ça, ils ont fait un péché, un grand péché. Naam, c'est un grand péché quand on joint entre deux prières, je dis pas sans raison, mais quand on le fait tout le temps. Dites-moi, on peut joindre, comme j'ai dit, pour une petite raison. Mais on ne fait pas tout le temps. Yani, on fait pas de cela une habitude. Maintenant, si on fait de cela une habitude, ça devient un péché et même un grand péché. Si on fait une habitude comme ça, par exemple, tous les deux jours, je joins, tous les jours, tous les deux jours, je joins. C'est pour ça, ce qui est drôle, qui est vraiment drôle, c'est que les chiites joignent entre le Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha. Et quelqu'un mal asif, quand les gens ne connaissent pas bien leur din, quelqu'un une fois m'a dit, ça fait 4 ou 5 ans, il m'a dit, c'est drôle, la mosquée qui est devant nous, je crois que c'est en Belgique, il m'a dit, la mosquée qui est devant nous, elle, c'est drôle, à chaque fois on joint, à chaque fois on groupe, on fait Dhuhr al-Asr, on fait Maghrib al-Isha. Je lui ai dit, yani, sans raison, hein, sans pluie, sans rien, il me dit, non, sans raison, toujours, Dhuhr al-Asr, Maghrib al-Isha. Alors je lui ai fait apprendre qu'il était avec les chiites. Il savait pas, parce que lui-même, il ne demandait pas la science, il savait pas. Les chiites, pour eux, c'est Dhuhr al-Asr, Maghrib al-Isha. Il n'y a que trois prières, comme c'est dans le Coran. Dans le Coran, c'est écrit, je vois pas, je n'ai pas trouvé le verset. Il a parlé du matin et du soir, c'est tout. Il a dit, et de la nuit. Il a dit, donc il n'y a pas cinq prières. La hawla wa la quwata illa billah l'ali l'adim. C'est pour ça que, pour eux, même salat al-jumu'ah, il n'y a pas. Ils montent sur le mimbar, ensuite ils font dhuhr et asr. Et la salat al-jumu'ah pour eux, le chiite, quand ils montent sur le mimbar, ils ne descendent pas jusqu'à salat al-asr. Ensuite ils descendent et ils font salat al-dhuhr et salat al-asr joignés. Naam, prochain sou'al, inshallah. La pluie est-elle une excuse pour ne pas aller prier à la mosquée? Naam, naam. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une excuse. Quand tu vois la pluie commencer à tomber, reste chez toi. C'est une excuse. Naam, tu peux rester chez toi, faire la prière chez toi, quand la pluie commence à tomber, pour ne pas sortir, ensuite revenir, yani, avec les cheveux mouillés, les vêtements mouillés, etc. Surtout, quand c'est, par exemple, comme en Europe, où il fait très froid, etc. La pluie, inshallah ta'ala, quand elle commence à tomber, c'est une excuse. Et tu dis, dans ton cœur, tu dis, Alhamdulillah qu'il y a la pluie, hein. Je vais, inshallah, faire la prière ici et rentrer dans mon lit, inshallah. Naam. Fadl, le prochain soir, inshallah. Il a dit, même pour le Jumu'ah, pour toutes les prières, la pluie est un, quoi? Est une excuse. Surtout si elle est qawiya, si elle est grande pluie. Lors de la lecture du Coran, il y a des sejdas. Si nous faisons la salat et que nous sommes sur un verset, naam, et que nous sommes sur un verset, je n'ai pas trouvé, devons-nous faire la sejda? Si oui, devons-nous dire le takbir lors du sujoud et lors du relevé du sujoud? Et lorsque nous lisons le Coran, pas en salat, devons-nous dire Allahu Akbar, faire sejda et faire takbir et revenir en position de départ? Quel est le hukm shara'i? Dire Allahu Akbar, faire takbir, faire sejda, faire takbir. en ce qui concerne la sujda hors de la salat. Quand quelqu'un est en train de lire le Coran, il n'est pas dans la salat. Femme ou homme, il est en train de lire le Coran, il arrive à une sujda. Il arrive à une sujda. Par exemple, il y a une sujda qui est le dinamano, qui est Abdur Rabbakum ou Sjoudo. Maintenant, il a dit Warka'u Sjoudo. Donc il a dit Sjoudo. Quand il a dit Sjoudo, je suis dans un verset où il y a le Sjoud. Il est permis, Naam, c'est une sunna de faire ce Sjoud. La plupart des ulama ont dit c'est une sunna de le faire. C'est-à-dire, si tu le fais, tu as un ajra, tu le fais pas, tu n'as pas d'ithm. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, a dit non, c'est une obligation, tu dois la faire. Mais le plus juste, Inch'Allah, c'est une sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sur le mimbar le vendredi, il a lu un verset, il est descendu du mimbar, il a fait la prosternation, tous ceux qui étaient derrière lui ont fait la prosternation avec lui. L'autre Jumu'ah, quand il est arrivé à un verset de prosternation, les sahaba ont commencé à se préparer pour se prosterner, il ne s'est pas prosterné. Donc le fait qu'il ne s'est pas prosterné, ça prouve que ce n'est pas obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas quelque chose d'obligatoire, sinon on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le haram, et ma'adallah qu'il fasse cela. Donc c'est une sunna, celui qui veut se prosterner la ajra, celui qui ne le fait pas, il n'a pas d'ithm. En ce qui concerne l'akhor, ce n'est pas obligé, yani, de se mettre debout. Certains, je les vois moi, il est assis en train de lire le Coran, il arrive à une sujda, il se lève. Il se lève pour dire Allahu Akbar et faire le sujoud. Le sujoud, tu peux le faire tout en restant assis. Ensuite, c'est pas obligé d'avoir les ablutions. Même si tu n'as pas les ablutions, tu peux faire le sujoud. Ensuite, ce n'est pas obligé de faire le sujoud vers la qibla. Tu le fais vers n'importe quelle direction. Tu ne cherches pas la qibla dans ce sujoud. Dans la position où tu es assis, tu t'inclines directement et tu dis, yani, tu descends. Maintenant, si certains disent, alors comment, yani, j'ai pas d'ablution, je lis le Coran, je te dis, n'oublie pas que quand quelqu'un, tu es en train d'écouter à quelqu'un, qui est en train de lire, il est arrivé à une sujda. Maintenant, tu n'as pas les ablutions et tu peux faire le sujoud avec lui. Reste quoi? Donc, pas besoin d'ablution, pas besoin de qibla, pas besoin de se lever. Reste quoi? Reste seulement Allahu Akbar. Est-ce qu'on le dit ou on ne le dit pas? Le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est de ne pas le dire. Même quand tu descends, même quand tu montes, tu te tais. Tu descends directement, tu fais le dua. Il est connu le doigt du sujoud. Et tu te relèves. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a choisi, c'est ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Il a dit, il n'y a pas. Tu descends, tu dis rien, tu montes, tu dis rien. Parce qu'il y a des gens qui disent Allahu Akbar avant de descendre, et Allahu Akbar quand il relève sa tête. Cheikh Al-Albani a dit, dans les deux cas, il n'y a aucun dalil. Cheikh Ibn Uthaymeen est resté au milieu. Il a dit, tu dis Allahu Akbar pour descendre. Et tu dis pas quand tu te relèves. Tu dis Allahu Akbar pour descendre. Et tu dis pas quand tu te relèves. Tout ça, on est où? On est hors salat. Maintenant, quand on est dans la salat, bien sûr, on a les ablutions, on est en face de la qibla, etc. Et on a lu un verset, comme on veut. Si on veut faire le sujoud, on le fait. C'est, on a des ajr, on veut pas faire ce sujoud, on ne le fait pas, on n'a pas d'ithm. Ici aussi, dans ce cas aussi, Cheikh Al-Albani a dit, il n'y a pas de takbir. Il a dit, tu te tais un peu et tu descends. Tu descends directement, tu fais la prosternation et tu te lèves aussi. Naam, c'est ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, tu dis Allahu Akbar en descendant. Tu t'arrêtes, tu dis Allahu Akbar, tu descends. Quand tu te lèves, tu dis pas. Mais ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, question de dalil, il a raison, il n'y a pas de dalil. Mais c'est un peu difficile quand il y a des gens qui sont derrière toi. Surtout s'il y a les femmes, elles sont en haut, par exemple, au premier étage où là il y a un mur entre vous et elle, ensuite toi tu t'es tu, tu es descendu, et elles ne savent pas que tu es en bas, tu es dans le sujoud, tu es déjà en bas toi. Ensuite toi tu te lèves, et peut-être elles ne savent pas, elles disent pourquoi il s'est arrêté de lire, peut-être qu'il y a quelque chose, ou là il a oublié, c'est tout. Alors toi tu as descendu, tu as fait le sujoud, et tu es remonté. Et ceux qui ont dit qu'il est possible qu'on dise on dise dans la salat, il est possible qu'on dise Allahu Akbar. Ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih que il disait Allahu Akbar dans chaque khafd wa raf. Il disait Allahu Akbar dans chaque inclinaison et chaque relevé de tête. Et ici, il s'est incliné. Donc ça rentre dans la généralité. C'est avec ce hadith aussi que Cheikh Mohamed Firkous Hafidhahullah dit que on dit Allahu Akbar quand on descend. Ou même quand on monte, on dit. Il a dit, je suis du genre qui dit on dit. Elle m'a une conclusion. Incha'Allah ta'ala, l'amr wasi'a. Yani, tout ce que tu fais, de ce que je viens de dire, Inch'Allah, il permet. Si tu t'étais, il n'y a aucun dalil, alhamdoulilah, très clair. Si tu dis en descendant, tu ne l'as pas dit de ta tête. C'est Cheikh Ibn Uthaymeen qui l'a dit. Si tu dis en descendant, en te relevant, tu as un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque prosternation et chaque inclinaison, quand il levait sa tête, il disait Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moi je préfère ne rien dire, sauf quand je sais qu'il y a des gens derrière moi ou là. Par peur que la salat va se yani, t'khallat, je dis, par peur que la salat ne yani, les gens ne savent plus yani, ce qui s'est passé. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Fadla inshallah, prochaine question. S'il n'y a plus de questions, vous me dites pour que je donne certaines questions aux libres et ensuite on va terminer, inshallah ta'ala. Est-ce qu'il y a plus de questions? Omar Abdullah et ceux qui n'ont pas de point rouge m'écrivent. Tfadla, pose la question. Omar Abdullah dit j'ai 16 questions. La hawla wa la quwwata illa billah. Omar Abdullah dit j'ai 16 questions. La hawla wa la quwwata illa billah. Non. Allez, je pose de temps en temps, pose une zichouya ou une toakas. Tant que je peux, pose. Tant que je peux, bilallah, pose. Seulement, ne perdons pas de temps, inshallah. Où est-ce qu'elles sont ces questions? J'ai lu que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit qu'on peut faire le rousse de deux façons et que l'une d'elles consiste à ne laver que la bouche, le nez et tout le corps. Et que si on fait cela, l'obligation est accomplie, ainsi que la purification. Mais quand on fait le rose de cette façon, doit-on laver ses mains, c'est pas bien des mots. Naam. Doit-on laver ses mains, c'est parti un des mots au début, comme dans le rose, complet ou non. Car quand j'ai accompli le rose de cette façon, juste la bouche, le nez et tout le corps, je lave toujours mes mains, parti un des mots au début, comme dans le rose complet. Et quand je fais de cette façon, je dois dire Bismillah avant de me laver mes mains, parties intimes, ou juste avant de laver. Naam. Si tu ne laves pas tes parties intimes, tu n'as pas fait le rost. Car le rost, c'est l'eau doit toucher tout le corps. Donc tu commences par les parties intimes, ensuite tu laves tes mains, ensuite tu dis Bismillah, et tu commences ou bien les petites ablutions, normalement, ou bien tu vas directement aux grandes ablutions, et tu n'oublies pas ta bouche et ton nez. Voilà, et tu termines par tes pieds. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Prochaine question, inshallah. Une sœur demande, est-ce possible de rappeler à Cheikh la raison pour laquelle nous ne devons pas faire la prière entre Salat al-Asr et Maghrib? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata ba'da subhi hatta tatlu'a ash-shams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub ash-shams. D'abord, de toute façon c'est une question yani, qui est venue avant l'heure, d'abord il faudrait savoir que ce qui est interdit de la salat avant, après l'asr, ce n'est pas directement après l'asr. Ce qui est interdit, c'est quand le soleil yani, est près du coucher. C'est quand le soleil est devenu jaune et commence à rougir, c'est à ce moment qu'on ne doit pas faire la prière. Mais si on fait la prière nafila juste après le asr, quand le soleil est toujours blanc, c'est permis. On va le citer, Inch'Allah. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صحو الشيخ الألباني on va le citer inshallah dans le prochain درس. Le prophète islam a dit que la salat بعد العصر إلا والصلاة عفوا إلا والشمس نقية مرتفعة بيضة dans trois versions différentes. Donc je répète, question salat al-asr, ce qui est interdit c'est que quand le soleil est devenu rouge et il va bientôt se coucher. Mais si c'est juste après l'asr, c'est permis. La même chose pour salat al-subh. Salat al-subh, c'est pas la même chose. Je veux dire que salat al-subh, c'est interdit à partir du moment où le soleil commence à sortir jusqu'à ce qu'il sorte bien. Quand il sort bien, il est assez élevé, qadra rumh, il est assez élevé de l'horizon, on peut faire les prières. Maintenant, pourquoi c'est interdit au lever et au coucher? Parce qu'il y a le shaitan. Le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Le shaitan, c'est qu'il y a des gens qui adorent le soleil. Non, il y a des bouddhistes, il y a des gens, des adorateurs, ça s'appelle les adorateurs du soleil. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient le soleil se lever ou bien se coucher, ils joignent les mains et ils restent dans une position de khushu et ils commencent à faire des doigts, etc. Donc le shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ses deux cornes. Le shaitan a deux cornes. Il met ses deux cornes entre le soleil, de façon à ce que, quand le soleil se lève, on a l'impression qu'il se lève entre quoi? Qu'il se lève entre deux cornes. Ne m'envoyez pas de PV parce que je ne peux pas lire et être concentré. Pose dans la salle. Je disais que le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Le shaitan a deux cornes, alors qu'est-ce qu'il va mettre ses cornes devant le soleil de façon à ce que quand le soleil monte, on a l'impression que le soleil monte entre les cornes du shaitan. C'est pour ça que c'est interdit. Mais ce qui est étonnant, premièrement, ce hadith nous a appris que le shaitan a deux cornes. On ne savait pas que le shaitan avait des cornes. Maintenant, le hadith a dit qu'il avait deux cornes. C'est une description du shaitan. Deuxièmement, ce qui est étonnant, c'est que les gens, ceux qui adorent le soleil, est-ce qu'ils voient le shaitan? Est-ce qu'ils le voient quand il va mettre les cornes le matin et au coucher du soleil? Ils ne le voient pas. Et pourtant, chauffe l'islam. L'islam interdit tout ce qui est shirk et tout ce qui est une porte, une issue vers le shirk. Ça s'appelle Sadd al-Zara'i. Regardez, nous, quand on va faire la prière, lorsque le soleil est en train de se lever, en train de se coucher, je n'ai même pas dans ma tête que quoi? Que le shaitan est là-bas, il a mis ses cornes. Il y a même beaucoup de musulmans qui ne savent même pas cela. Regarde, tu sais même pas qu'il y a un shaitan, et ceux qui savent n'ont même pas d'idée dans la tête, et pourtant c'est interdit que tu fasses. C'est interdit. Même si toi tu vois pas le shaitan, ou là tu n'as pas dans la tête que le shaitan est devant toi, tu as oublié, ne fais pas plaisir au shaitan. Lui, ça lui fait plaisir. Même si tu le vois pas, il te dit, hein, masha'Allah, ils sont en train de faire la ibada au moment où je suis là en face d'eux. Subhanallah. Même toi tu le vois pas, il voulait que c'est interdit en islam. Non, même tu ne le vois pas, lui il te voit. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il est en train de voir toi et sa tribu, ils sont en train de te voir de façon à ce que tu ne les vois pas. Donc ne lui fais pas plaisir et laisse-le mourir. Mourir de quoi? Mourir bi ghaydi. Laisse-le mourir de colère. Fadlan, inshallah, prochain soual. Est-ce que vous pouvez citer les livres qui vous ont servi de base pour faire ce cours? Si on n'a pas fait la prière pendant un jour, doit-on la rattraper ou pas? Quels sont les livres qui vous ont servi de base pour ce cours? Je me base sur ce livre qui s'appelle Moussou al-Fiqhiya, Mouyassara. Il est Cheikh Hussein Ben Aouda, l'Aouaïcha. Il est connu sous la stand Tilmid. C'est un élève de Cheikh Al-Albani, l'un de ses proches élèves. C'est pour ça que dans ce livre, il dit beaucoup des choses, il les dit, je les ai entendues de Cheikh Al-Albani, je les ai entendues en privé de chez lui. Mais bien sûr, tu dois savoir que je me base pas seulement sur ce livre, c'est-à-dire que je me base sur ce livre pour lire, mais je fais venir des choses qu'on soit de d'autres livres ou là des choses que je me rappelle que j'ai lu dans cette Al-Bari ou la Cheikh Ibn Uthaymeen ou la Majmou' al-Fatawa al-Kubra. Donc je me base beaucoup sur le Majmou' al-Fatawa les Cheikh Ibn Taymiyyah et les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen et les livres de Cheikh Al-Albani. Les trois, beaucoup. Je me base beaucoup sur ces trois. Plus que des Cheikh Ibn Uthaymeen dans ces Majmou' al-Fatawa, tous les livres de Cheikh Al-Albani et tous les livres, Inch'Allah Ta'ala, de Cheikh Ibn Uthaymeen. J'essaye de voir ce qui a rapport avec le DAF. Inch'Allah, et la prière, si on ne la fait pas pendant un jour, doit-on la rattraper ou pas? Si on ne fait pas une prière pendant un jour sans excuse, c'est pas la peine de la rattraper. Tu fais seulement le repentir. Tu fais seulement le repentir parce que tu as fait quelque chose de grave. Et si tu ne l'as pas faite à cause des excuses, en principe, il n'y a pas d'excuse parce qu'on peut la faire même debout en marchant. On peut la faire même assis dans un jardin. On peut la faire même assis dans un bus. On n'a pas d'excuse. Mais supposons qu'on était je ne sais pas où. Yani, et si tu es excusé, tu rattrapes. Sinon, on ne peut pas rattraper. Comment devons-nous faire le rouge? J'ai dit que vous avez la façon de le faire. De faire le 8, les différentes variantes. Barakallahu fik. Inch'Allah ta'ala, je demande à cette personne de me yani ta'afini. Pourquoi? Parce que le 8 inshallah ta'ala va venir avec les salats très bientôt. On va parler salat le 8 et ses différentes variantes. Naam, il y a 7 ou 8 variantes dans salat le 8. Je vais les citer inshallah. Si ce n'est pas le prochain daf, c'est l'autre, yani très très bientôt inshallah ta'ala. Pour le rost, j'en ai beaucoup parlé, mais je le résume très vite. On commence par les parties intimes, par devant, par derrière. On se lave, ensuite on se lave les mains avec le savon, ensuite on dit bismillah et on fait les petites ablutions. On commence par les petites ablutions, ensuite on a terminé les petites ablutions sans terminer les pieds. Ça veut dire on commence par les petites ablutions, quand on arrive aux cheveux, on fait les cheveux, les oreilles, on s'arrête. Ensuite on commence le grand rost, on commence à jeter l'eau de la tête, l'eau qui tombe au-dessus de la tête. Si c'est une femme, elle enlève les tresses si c'est le rousse des menstrues. Si c'est le rousse des menstrues, la femme enlève, dénoue ses tresses. Si c'est la djanaba, c'est pas la peine qu'elle dénoue ses tresses. Ensuite, elle commence à jeter de l'eau à partir de la tête. De préférence, elle commence par la droite, côté droit de la tête, et elle descend jusqu'aux chevilles. Ensuite, côté gauche de la tête, elle descend jusqu'aux chevilles. Ensuite, elle s'éloigne un peu et elle fait ses pieds, si elle peut, un côté, yani dans un endroit plus éloigné, un peu éloigné de l'endroit où elle a fait le rouge, si elle peut. Maintenant c'est un peu difficile, le robinet est là devant nous. Autrefois on faisait avec une tasse, on faisait ici, on s'éloignait un peu, on termine les pieds. Maintenant c'est le robinet, on ne peut pas le détacher. Donc je termine mes pieds, je n'oublie pas de mettre mon petit doigt à l'intérieur des orteils de mes pieds. Mon petit doigt, je n'oublie pas de le mettre à l'intérieur des orteils pour être sûr que l'eau et passer entre les orteils et les doigts. Et khalas, j'ai terminé, je fais le doigt et j'ai terminé. Voilà, en général c'est le rousse de la djanaba et c'est le rousse des monstrueux. C'est comme ça qu'on le fait en général. Fadla inshallah, prochain soal. Une soeur retarde sa salat chez elle car il y a beaucoup d'impuretés par rapport à ses enfants de bas âge, ce ne sont pas les siens, et il laisse traîner les couches. Un d'entre eux bave. Je ne sais pas ce que ça veut dire bave. Le mot bave, je ne le connais pas. L'autre vomit, ça c'est très bien. Le temps, et elle est soucieuse de savoir si elle prie l'ana, si elle prie dans un lieu purifié ou pas. Elle voudrait savoir comment faire face à cette situation qui lui est insupportable. Naam. En général, quand une femme, elle a des bébés, par exemple, elle a des bébés qu'elle éduque, là. Elle a des bébés, etc. Naam. Elle éduque, ça. Premièrement, il faut qu'elle sache que quand quelqu'un est à bas âge, surtout s'il est très bas âge, s'il n'a pas encore mangé, si c'est quelqu'un qui boit seulement du lait, qui n'a pas commencé à manger, celui-là, si c'est un garçon, c'est pas la peine de lever, de laver, pardon, son urine. Si c'est son urine, c'est pas la peine de la laver. On jette juste un peu d'eau sur l'endroit où il a uriné sur nous. Si on prend un bébé qui n'a pas encore mangé, qui boit seulement du lait, et il urine sur nous, c'est pas la peine, yani, de laver et d'essorer, etc. On jette juste un peu d'eau sur l'endroit où il a uriné. Yani, on n'a pas besoin d'essorer. Si c'est une fille, on est obligé de laver cet endroit et de l'essorer. C'est une fille, même si elle boit seulement le lait. Pour faire la différence entre le garçon et la fille. Maintenant, si les deux, là, ce sont des enfants qui mangent, etc., à chaque fois qu'il y a une urine dans un endroit, on doit laver la partie où il y a l'urine. On jette un peu d'eau et on essore, comme ça, avec nos doigts. On essore et on voit l'eau qui commence, des gouttes comme ça, qui tombent par terre. Ça veut dire qu'on a essoré. Maintenant, quand on n'est pas sûr, c'est le ouswes. Quand on n'est pas sûr, on dit, je ne sais pas, peut-être il m'a touché, peut-être il ne m'a pas touché. Ça, c'est le ouswes. Ça, tu n'as rien à laver. Tu ne laves que la chose que tu as vue de tes yeux et dont tu es certain que c'est l'urine ou là, c'est les excréments. Voilà, je vois l'urine, je la vois, elle est là, voilà la plaque. Mais quand je vois rien, et je me dis peut-être il m'a touché, peut-être. Là, il n'y a pas de peut-être. Peut-être c'est le shaitan qui dit peut-être. Toi, tu vas faire, inshallah ta'ala, la prière, sans dire peut-être il y a quelque chose. Donc tu n'as pas vu tes yeux, tu n'es pas certain ou certaine, c'est pas la peine de dire peut-être c'est le ouswes. La même chose pour l'endroit où tu fais la prière. Tant que tu ne vois pas la najasa, la souillure de tes propres yeux, et tu peux dire voilà la najasa, regardez, venez voir, je la vois, voilà la najasa. Tant que tu la vois pas de tes yeux, tu peux faire la et tu dois faire la prière dans cet endroit. Tout endroit est pur, tout endroit dans la maison est pur, sauf l'endroit où il y a la souillure et je la vois ou là je la sens. Donc il faut pas laisser à Iblis qu'il fasse aux gens les ouswes. Tant que tu vois pas la souillure dans un endroit, tu fais la prière. C'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple, tu leur dis, je sais pas, on est dans la forêt ou là, viens on fait la prière ici, c'est l'heure de la prière. Ah, il te dit, on sait jamais, peut-être un chien est passé par là. Un chien est passé par là, un sanglier est passé par là, une vache, un lion, un tigre est passé par là. Qu'est-ce que ça peut me faire là? Est-ce que le chien ou là qui est passé par là, tu l'as vu en train de faire ses besoins? Tu peux montrer le film, tu as la vidéo, tu l'as filmé. Apporte-moi le chien, je le vois en train de faire ses besoins dans cet endroit. Tu n'as pas de film, donc tu n'as pas de preuve. Un chien ou là, je m'en fous moi du chien. Moi, et si le chien l'avait fait? Khalas, voilà le film. D'accord, laisse-moi voir. Alhamdoulilah, j'ai vu le film. Dans le film, je vois c'est écrit le 12 novembre 2004. Nous sommes 2006. Ça veut dire la souillure est restée 2 ans au même endroit. Taqidlah. Dès que le soleil se lève, il frappe la souillure à lui. S'il n'y a plus de souillure, khalas. Le soleil lui-même peut purifier les choses. Donc même si le chien a fait quelque chose ici, mais cette chose n'existe plus. Il a zel al-mawjib, zel al-mawjib. Khalas, je ne vois pas la souillure. Où est-ce qu'elle est? Elle était là il y a 3 jours. Maintenant, il n'y a plus de souillure. Donc je peux faire la salat, c'est un endroit même où il y avait la souillure, si elle n'y est pas. Donc ceux qui disent on fait pas dans cet endroit, peut-être il y a la souillure, ceux-là, et ce sont des gens qui ont le ouswes. Non, ce sont des gens mal asaf, ils ont des ouswes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Et la terre, Allah azza wa jal me l'a rendue pure et purifiable, et elle purifie. Pure. Et masjid, c'est un lieu de prière. Illa al-maqbara, sauf le cimetière ou le hammam, et le bain mort. Maintenant, je ne suis ni dans un cimetière, ni dans un bain mort. Je ne suis pas dans la salle de bain, alhamdoulilah. Et je ne suis pas dans le cimetière. Voilà pour la najasa. Donc, toute terre, tout endroit de la terre est pur. Et je fais la prière dans n'importe quel endroit de la terre, sauf dans un cimetière et dans un bain mort, et sauf si quelqu'un m'apporte un dalil que ici il y a, dans cet endroit il y a la najasa. Tant qu'il n'y a pas de dalil, al aslu fil ashyamada at-tahara, comme a dit Saadi Allah rahmo, والأصل في مياهنا الطهارة والثوب والأصل في مياهنا الطهارة والثوب والأرض والحجارة. نعم والأصل في مياهنا الطهارة والثوب والأرض والحجارة. Toutes ces choses إن شاء الله تعالى sont إن شاء الله تعالى pure. تفضل إن شاء الله prochain سؤال. Inch'Allah ta'ala, il reste un quart d'heure, ce sera une heure du matin. Hein? Une heure du matin, Inch'Allah ta'ala, on se séparera, bi'inna subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum, est-ce que nous pouvons déterminer l'heure de la prière sans tenir compte de la situation géographique? Est-il préférable de prier la tête couverte ou non? Si l'on porte un chapeau qui couvre le front, doit-on le relever pour le soujoud ou non? Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'heure de la prière sans tenir compte de la situation géographique. Ça, je l'ai pas bien comprise. La première question, je l'ai pas bien comprise. Qu'est-ce que ça veut dire la situation géographique? Ça, je l'ai pas bien comprise. Est-ce que nous pouvons déterminer l'heure de la prière sans tenir compte de la situation géographique? Je ne sais pas ce que ça veut dire cette question. Pardon. Hein. Est-il préférable de prier la tête couverte ou non? Il est préférable de faire la prière la tête couverte. Une femme, si elle fait la prière la tête non couverte, elle n'est pas valable, bien sûr. Sauf si c'est une fille qui n'est pas encore pubère. Si c'est une fille de 7 ans ou de 8 ans, elle n'est pas encore pubère, elle peut faire la salat, la tête découverte. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata li ha'id illa bi khimar ». Il a dit, c'est un hadith sahih, c'est-à-dire que la femme qui est pubère, elle doit mettre le khimar. Ça veut dire que celle qui n'est pas pubère, elle peut ne pas le mettre. Premièrement. Deuxièmement, quand c'est un homme, il est préférable qu'il mette la tête, qu'il couvre sa tête. Cheikh Al-Albani a dit, jamais dans un hadith, je n'ai rencontré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière, hasir ras, avec la tête non couverte. Jamais il a dit, je n'ai rencontré un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, a fait une fois, avec la tête non couverte. Mais seulement attention, ce n'est pas haram, c'est seulement makruh. Makruh, et le makruh, on a dit c'est ce que c'est. C'est ce que Allah Azza wa Jalla demande de ne pas faire sans insistance. Ça, ma talab al-shari', yani ma talab al-tarkahu ala jihatin laysa fiha jazm. Ça, min ghayri jazm, Allah subhanahu wa ta'ala la yajzim bi ya'muruna bi tarki shay'in min ghayri jazm, c'est makruh, c'est tout. Et Cheikh Al-Albani a dit, c'est aussi une bid'a pour ceux qui jamais ne se couvrent la tête par exemple, et il laisse spécialement quelque chose dans sa poche spécialement pour la salat. Il a dit, moi quand je fais la salat, je couvre ma tête, c'est tout. Quand je fais pas la salat, je suis yani comme ça, yani je montre mes cheveux. Seulement quand j'arrive à la salat, comme font ici, je vois ici dans ma mosquée, certains bien sûr ignorants, etc. Quand c'est l'heure de la salat, il prend un morceau de journal, et il le met sur sa tête. Parce qu'il n'a rien, il n'a ni mouchoir, ni serviette, ni taqiyah, la chose qu'on met sur notre tête blanche. Il y a certains qui ne trouvent rien à la dernière minute, ou la dépôt, ou là, des fois je vois avec un journal. Il met un journal sur sa tête, ça rentre dans les bid'ahs. Prochain sou'al, Inch'Allah. Une seconde, je vais dire, Inch'Allah, ta'ala, sou'al. Naam. Il dit, Barakallahu fikoum, un frère vient à la mosquée et l'imam a commencé la prière. Et il ne trouve pas de place dans le dernier rang de Moussallin. Est-ce que c'est permis de faire un petit signe sur le dos d'un frère pour qu'il recule? Et comme ça, le frère qui est venu en retard ne fera pas la prière seul dans un rang. Bismillahirrahmanirrahim, salat salam ala ashraf al-mursalin. Les ulama ont dit, parce qu'il y a un hadith qui dit que en ce sens, yani, tu tires quelqu'un et tu ne fais pas la prière seul. Les ulama ont dit, Cheikh Al-Albani a dit, bien sûr, il a dit quand on tire quelqu'un, ce n'est pas bien, ça rentre même dans la bid'a. Premièrement, quand tu tires quelqu'un, tu laisses la place vide dans le rang où tu as tiré. Ça, quand tu l'as tiré, maintenant il est avec toi dans le rang. Tu remarques pas que tu as laissé un trou
à la place de cette personne qui est venue vers toi. Deuxièmement, tu risques de, comment on dit en arabe, tu risques de yankhla. Il est en plein salaf et il entend quelqu'un le frapper dans son dos là. Tu risques de surprendre, voilà, tu l'as surpris. Lui qui était en train de, je ne sais pas quoi penser, Jahannam et ça, alors que tu le frappes au dos, il n'attendait pas ça. Tu le surprends et c'est interdit de surprendre quelqu'un. Et troisièmement, ça, les salafs ne l'ont pas fait. Cette chose, les salafs ne l'ont pas faite. Les salafs ne l'ont pas faite. Alors, tu es seul. Maintenant, tu es seul dans le rang. Quand on est seul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de salat pour quelqu'un qui est seul. Ça, la salat li munfaridin khalf as-saf. Hadith al-Bukhari et les autres. Il n'y a pas de salat pour quelqu'un qui est seul. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas, tu choisis de l'un des deux avis. Ou bien tu choisis de l'avis de Sheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu attends un peu. S'il n'y a personne qui vient, tu ne peux pas faire la salat. Tu attends s'il y a des gens qui viennent. S'il n'y a personne qui vient, tu ne peux pas faire la salat. Yani, tu vas chez toi, ensuite tu la fais seul chez toi. Ou bien tu prends l'avis de Sheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu fais la salat et tu es excusé. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Et c'est aussi ce qu'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah. Il a dit, c'est pas toi qui as voulu faire la salat seul. Il a dit, le hadith a dit, si tu l'as fait seul, elle n'est pas acceptée. Mais il voulait dire, si tu l'as fait seul, alors que tu pouvais rentrer dans les rangs. Mais toi tu dis non, tu préfères être seul. Peut-être j'aime pas, yani naïf, ou là, j'aime pas être au milieu des gens. Là tu dis, je l'ai fait seul. Dans ce sens, Cheikh Albani a dit, voilà le sens du hadith, elle n'est pas acceptée. Mais si tu veux rentrer et tu n'as pas trouvé de place, il a dit la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Il a dit tu l'as fait et elle est acceptée. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Autre question, inshallah. Est-ce que c'est une erreur des musallins comme c'est écrit dans Naam. C'est une erreur de musallin. Naam. Et inshallah ta'ala, si je ne me trompe pas, elle est dans le livre Akhta al-Musallin de Sheikh Salim Mashour. Je crois qu'elle est dans son livre, Inch'Allah Ta'ala. Sur le prochain sou, Inch'Allah. Oum Abdullah, pose des questions, Inch'Allah, s'il y a pour des sœurs. Est-il vrai que si on n'entend pas l'adhan du Jumu'ah, la Jumu'ah n'est pas obligatoire? Bismillahirrahmanirrahim, Salam Shouf Moussalim. Moi, Inch'Allah Ta'ala, quand j'ai passé mon magistère, j'avais choisi comme sujet tout ce qui a rapport avec Salat Jumu'ah. Donc j'ai choisi pour ma thèse tout Ahkam al-Jumu'ah. Donc j'ai choisi tout ce qui a rapport avec la Jumu'ah. Quand je suis arrivé à cette mes'ala, est-ce que Salat al-Jumu'ah, quand Salat al-Jumu'ah est obligatoire et pour qui est-elle obligatoire, j'ai donné les 5 ou 6 avis des ulama. Ceux qui disent, il y a qui disent elle est obligatoire, je ne sais pas, 1000, hein, 1 km, 714 mètres, elle est obligatoire. Il y en a qui disent elle est obligatoire, ahoula ou la quoi t'elle est bla. Masafat yom, yani, si tu sors, masafat yom, par exemple, si je sors de la maison à 5h du matin et je commence à marcher tout droit, jusqu'à Salat al-Maghrib, et je vois combien j'ai de marché de kilomètres. Du matin au soir, combien j'ai marché? J'ai marché peut-être 50 km. Donc, Salat Jumu'ah est obligé à 50 km. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, j'ai donné l'avis où il est dit que, yani, Salat, ala man sami'a an-nida faqat. Que Salat Jumu'ah, ça rentre dans une salat, toutes les salawat. Et que toutes les salat, c'est seulement pour quelqu'un qui entend l'appel. C'est-à-dire, la messe à la distance doit être de façon à ce que j'entende le mu'adhan. Et j'ai choisi cet avis et j'ai donné ces dalils, bien sûr, dans la thèse, elles sont dans des pages et des pages. Et j'ai choisi cet avis que même le jumu'ah, si la distance est grande de façon à ce que je ne peux pas entendre le mu'adhan, s'il fait le adhan, je suis plus obligé d'aller à la jumu'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Prochain sou'al, inshallah. إذا مات إنسان وهو يذبح للجن
ومصر على ذلك هل يصلى عليه ويدعى له؟
نعم، إذا مات إنسان وهو يذبح للجن ومصر على ذلك هل يصلى عليه ويدعى له؟ إذا كان هذا الإنسان فيه من أقام عليه الحجة، فيه من أقام عليه الحجة فلا يصلى عليه ولا يدعى له. إذا كان هذا الإنسان فيه من أقام عليه الحجة، لأن أنت ممكن كلمته تقول أنا كلمته، نعم تكلمته، لكن أنت من عنده؟ أنت من عنده؟ هل يعني هو معترف بك أنك يعني من أهل العلم، والشيء الذي تقوله يعني هو فعلا مقتضى الكتاب والسنة وكذا، أم هو يقول في نفسه يقول هذا جاهل، هذا جاهل جاي يعلمني الدين، أنا العلماء كبار سمعتهم يقولوا بلي تقدر تفعل هذا، هذا شيء ثاني. لكن إذا كان قامت عليه الحجة ويصر ويعلم أن هذا لا يجوز فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن حتى في مقابر المسلمين. نعم، لأن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال ولا يكفر أحد حتى يعلم أن فعله هذا موجب للكفر، ولا يكفر أحد حتى يعلم أن فعله موجب للكفر، لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون، ولقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لابد أن يتبين له الهدى، قال هذا نصله جهنم والعياذ بالله. تفضل بخشان سؤال إن شاء الله. إن شاء الله لدو ديغنيغ كيسيون، تفضل. أم عبد الله جزاك الله خير، صح يسفي طاقتو مو جزاك الله خير، ما يلغى 5 مينوت كومون شوي لغى 5 مينوت أم بروفيت إن شاء الله تعالى. S'il n'y a pas de questions, Om Abdullah, je passe à Boumerim 26 qui lève sa main. Tu as des questions ou là tu n'en as pas? 17 questions? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Pose inshallah deux questions, pose deux questions inshallah. Tout à l'heure, je m'étais déconnecté, j'étais en train de parler. J'avais dit que pour les contrôles, vous avez inshallah demain jeudi et vendredi et samedi, c'est le dernier jour. Samedi, vous pouvez envoyer même le samedi, samedi matin, samedi après-midi, parce que samedi on a inchallah un dars. Mais avant le dars, vous avez donc jeudi, vendredi et samedi inchallah pour le dernier jour pour les contrôles bi'l-Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisqu'il n'y a aucune question qui me vient, Oum Abdullah, j'attends si tu colles une question inchallah. J'ai une autre question, est-ce qu'il permet de regrouper le Maghrib et l'Aïcha pour dormir, car le lendemain on se lève tôt pour travailler? En général on ne le fait pas, en général on n'a pas le droit de regrouper comme ça sans, yani, sans raison et en faisant cela une habitude. Mais si des fois, je dis, si des fois quelqu'un se sent vraiment fatigué, il dit j'ai même la tête qui tourne, aujourd'hui là, je ne peux plus tenir. Celui-là, il peut faire la salat maghrib, en même temps l'Isha et l'huître et ensuite dormir. Naam. Il le fait quand? Il le fait quand il se sent vraiment, yani, comme on dit, yani, vraiment fatigué. Il dit je peux plus tenir debout. Celui-là, il l'a fait, inshallah ta'ala, il dort. C'est une permission pour lui. Mais il ne fait pas de cela une habitude, inshallah ta'ala. Prochain soual, inshallah tafadhal, et dernière question. Est-ce qu'on est obligé de lire la Fatiha derrière l'imam quand il lit fort comme au Maghreb? Il y a deux avis des ulama, bien sûr. La plupart disent qu'on doit la lire, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz et tous les ulama, si je ne me trompe pas, de l'Arabie Saoudite. Ou alors la plupart disent quand l'imam lit, on est obligé de lire derrière lui, même quand il lit fort. Il y a le deuxième avis, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Et avant lui, l'avis de Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui a dit que quand l'imam lit fort, je ne suis pas obligé de lire derrière lui. Et c'est la chose que j'ai choisie. C'est-à-dire, c'est la chose que moi j'ai choisi, le deuxième avis, cet avis. Quand l'imam lit fort, je ne suis pas obligé de lire derrière lui, à cause du Coran et du Hadith. Le Hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a. Il a dit quiconque a un imam, la lecture de l'imam c'est en même temps la lecture de celui qui est derrière lui. Ce hadith, Cheikh Al-Albani a dit, a abrogé, il a dit nasakha,
il a abrogé le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salat liman lam yaqra bi umm al-kitab, quiconque ne lit pas avec la Fatiha n'a pas de salat. Il a dit, le Cheikh Al-Albani a dit, ce hadith a été abrogé par l'autre hadith que j'ai cité tout à l'heure. Quant à Cheikh Al-Islam, Allah yarhamou, il m'a beaucoup plu. Pourquoi? Non, en fait, lorsque l'imam est en train de lire à voix basse, on doit tous lire le Fatiha à voix basse. Maintenant, quand lui, il lit à voix haute, pour qui lit-il? Pour qui? Pour qui est-il en train de lire? S'il est en train de lire pour lui, pourquoi il lève la voix? Qu'il lise à voix basse. Et s'il est en train de lire pour moi, comment dois-je lire alors et ne pas l'écouter? Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. صح. S'il lit à voix haute, pour qui est-il en train de lire? Pour lui? Alors qu'il se taise, qu'il lise à voix basse si c'est pour lui. Si ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. Donc si c'est pour moi, il faut que je l'écoute. Car le Coran a dit, quand le Coran est lu, écoutez-le. Premièrement. Deuxièmement, Moussa alayhi salam, quand il a fait les doua, son frère Haroun, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait seulement Amin, Amin, Amin. Moussa alayhi salam faisait les doua, Haroun alayhi salam disait Amin. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jal? Et faisait des doua bien sûr contre Firaun, etc. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, قد استجيبت دعوتكما قد استجيبت دعوتكما, il a dit vos doua ont été exaucés. Mais en fait, qui a fait le doua? C'est seulement Moussa. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit vos doua, vos deux? Parce que Haroun disait quoi? Disait Amin. Donc quand quelqu'un dit Amin, ça veut dire que je suis de ce que ça veut dire, ce que tu dis moi aussi je l'atteste. Naam, ce que tu dis c'est comme si je l'avais dit moi. La même chose ici. Quand lui il faisait les doigts, lorsqu'il disait seulement Amin, Allah a dit j'ai accepté vos doigts. C'est comme si Haroun a fait les doigts. Pourquoi? Parce qu'il disait Amin. C'est la même chose quand l'imam il termine la salat, il dit Amin. Toi tu dis Amin, Amin. Ça veut dire Naam. C'est comme si j'ai lu avec toi le Fatiha. C'est comme si j'ai lu aussi avec toi le Fatiha. Wallah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, même avec cet avis, quand l'imam me donne l'occasion de la lire, je la lis. Quand l'imam me donne l'occasion de la lire, il se tait, comme ils font ici. Ici, c'est yani, chaque fois que l'imam termine Fatiha, c'est comme ça le madhhab Shafi'i, etc. Dès que l'imam termine Fatiha, il dit Amin, et il se tait presque une minute, le temps qu'il donne aux autres de lire. Moi, quand il me donne cette occasion, qu'est-ce que je fais? Je lis. Yani, alhamdoulilah, il m'a donné l'occasion. Mais quand il ne me donne pas l'occasion, alors on dira, comme a dit Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, j'ai entendu dans une cassette. La cassette, c'est spécialement, une cassette spécialement pour faire un jidel avec quelqu'un de l'Inde, qui disait que c'est obligatoire de lire le Fatiha. Il dit c'est obligatoire de lire le Fatiha après l'imam. Il a fait un mujadal, un jidal avec l'Albani. Et bien sûr, il n'est pas allé loin. Il a parlé un peu, ensuite il n'a pas pu terminer. Le Cheikh Al-Albani lui dit, pardon, on doit lire le Fatiha, mashallah, on doit la lire. Où est-ce qu'on la lit? À quel endroit? À quel endroit on la lit? Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas. L'imam il se tait. Tu peux lire? Il parle, il n'y a pas d'endroit. Il parle, lui, il y a voix haute et toi tu lis. Il parle là. Même des fois, le professeur m'a entendu quelqu'un lire, il a dit Man khala jani. Si, alors, tu es obligé de dire quoi? Tu es obligé de dire. Donc, l'imam se tait un peu pour laisser les gens lire. Et là, Cheikh Al-Albani te dira donc tu as fait une bida. Non, donc tu as fait une bida. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a dit quiconque lit le Fatiha derrière l'imam, il a fait deux fautes, la première de l'avoir lu et la deuxième d'avoir poussé l'imam à ce qu'il fasse une bid'a. Car tu pousses l'imam à ce qu'il se taise pour qu'il te laisse lire. Alors que le prophète Sassam ne s'est jamais tué. Il ne s'est pas tué. Le prophète Sassam se taisait quand il terminait le Fatiha. Il se taisait pour prendre le souffle et il commence à lire la deuxième surah. Ensuite il se tait un peu et il fait le recours. Mais le prophète Sassoum, jamais dans sa vie, ne s'est tué pour laisser aux gens derrière lui pour lire la Fatiha. Si elle était obligatoire, comment ne se serait-il pas tué, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais je vous dis toujours, si vous prenez avec l'avis de Cheikh Wasmo, Ben Othaymin, Ben Bazoula, prenez, hein, ne m'imitez pas. Lisez ce qu'on dit cela, ce qu'a dit Cheikh Islam Timia, ce qu'a dit l'Albani, et sortez, Inch'Allah Ta'ala, avec un résultat. Mais si vous prenez avec l'avis de Ibn Hazm, Allah yarhamo, Ibn Hazm dit, c'est une condition. Si tu lis pas Al-Fatiha derrière l'imam, c'est une condition. Ça veut dire, si tu arrives à la salat, et l'imam a dit, par exemple, El Mardoubi Ali Mola Dalin, il a terminé Al-Fatiha, par exemple, tu es rentré, tu as dit Allahu Akbar, et il s'est incliné, ça veut dire, cette raka'a pour lui, tu dois pas la compter. Classe, tu n'as pas cette raka'a. Imam dit salam alaikum, tu te lèves, tu fais cette raka'a. Celui-là, bien sûr, Ibn Hazm, Allah yarhamo, il a exagéré. Les ulama disent, il a exagéré. Badak, ça s'est jamais vu, ce qu'il a dit ici. Mais c'est un alam, il a un ajr, inshallah ta'ala. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si j'ai dit juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit faux, c'est shaitan. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك ونسيرون كونتورا إن شاء الله تعالى يوم السبت في الدرس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوبليي با بور لو كونترول دونبوايي أ أفوند الإسلام